Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Il y a un ou deux ans, j'étais amoureux de quelqu'un et je reçois pour la première fois un message où la personne me dit « Ah, tu me manques ». Et je me souviens de l'ivresse de bonheur immédiatement suivie de la détresse absolue de me dire « Ce n'est pas normal de ne pas pouvoir ressentir ça tout seul ». Je me sentais défaillant de devoir dépendre de quelqu'un d'autre pour me sentir aussi bien dans ma propre peau, quoi. Et je me dis « Je dois vraiment travailler ». Sur le fait de ne pas dépendre des autres pour me kiffer, quoi.
Ino JP, c'est un des premiers humoristes que j'ai rencontré en me lançant dans ce milieu en Belgique et c'est toujours aujourd'hui une des personnes les plus drôles, les plus complexes et les plus surprenantes que je connaisse. Ça fait dans les 12 ans qu'il fait de l'humour et c'est clairement le mec où ça fait 10 ans que tout le monde dit « C'est sûr, l'année prochaine, il perce ». Sauf qu'il a cette double particularité d'être à la fois extrêmement doué et perfectionniste, mais aussi flemmard et désorganisé. Et tout ça donne un mélange assez zinzin. Il y a quelques années, il est allé étudier à l'École nationale de l'humour de Montréal, où il a eu un énorme déclic et il a réglé pas mal de choses et s'est mis un gros pied au cul et a fini par accoucher d'un premier spectacle qui s'appelle La vie quoi, qu'il joue beaucoup à Paris et à Bruxelles. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un Gens qui doute avec lui et c'était vraiment une bonne idée parce qu'au final, je pense que c'est un de mes épisodes préférés. On a parlé de plein de choses, de son enfance totalement hors du commun puisqu'il est né au Rwanda, il a été adopté par deux femmes en Belgique dans les années 80, puis à 20 ans il est parti à la recherche de sa mère biologique au Rwanda et a réalisé qu'elle était installée en Belgique sans qu'il le sache. On a aussi parlé de son journal des ratés dans lequel il écrit chaque jour, du fait que lui et moi on est tout le temps en retard parce qu'on déteste être en avance parce que ça nous fait perdre du temps d'attendre ceux qui sont en retard. Et on en a déduit qu'on était un petit peu des merdes. On a aussi parlé de son emménagement de 4 mois à Paris pour se mettre dans des bonnes conditions pour bosser son spectacle, de l'impression de ne pas être fait pour les réseaux sociaux, de quand il a arrêté de boire et a tenté de devenir une meilleure personne, de sa terminale qu'il a fait en 3 ans, c'était une trilogie, de quand il était petit. Et qu'il trouvait que s'entraîner à quelque chose et travailler fort, c'était tricher, parce que, évidemment, à la fin, bah, tu deviens bon, donc c'est pas du jeu. D'auto-sabotage, de quand les personnes qu'on aime décèdent et qu'on a peur qu'il n'y ait plus aucune trace de leur existence, du fait que le stand-up est sûrement l'art de manière générale, c'est beaucoup de moments désagréables pour, au final, assez peu de moments galvanisants, et puis surtout, de souffler aux anchois. J'espère que tout ça vous plaira.
C'était cool, j'ai l'impression d'avoir quand même brûlé pas mal de calories.
T'as fait quoi comme sport ?
J'ai fait un peu de vélo et un peu cette espèce de natation verticale, de la air natation là. Tu vois ce truc où cette espèce de machine où tu montes à la fois des escaliers et à la fois t'as des trucs en main là. Et donc voilà, j'ai fait ça et ça m'a vraiment fait du bien. Donc c'était une bonne matinée, mais en vérité, ce que je voulais vraiment faire, c'était aller au yoga, mais j'étais en retard, donc j'ai pas pu aller. Mais en même temps, voilà, j'ai quand même, j'ai pas renoncé quoi, tu vois. Je me suis pas dit tant pis, je ferai du sport demain. J'ai fait tant pis, je vais faire un peu de salle, voilà, et c'est cool. Donc non, pas de regret.
Tu aurais pu rester devant la porte du cours de yoga et faire.
Mais j'aurais pu rester devant, derrière la porte de chez moi surtout, et ne même pas initié. Et voilà. Et j'essaie de plus en plus de faire ça, de me dire, OK, tant pis, c'est pas grave, quelle est l'alternative? Tu vois, d'avoir ce truc de comment? Done is better than perfect, ou un truc comme ça. Mm. De me dire, voilà. Avoir fait quelque chose, c'est mieux que rien. Voilà, ce qui me semblait horrible avant, de se dire je me contente, tu vois. J'étais pas un settler. Mais là, je suis. Là, je me dis, mais en même temps, j'ai pas le choix, en fait, c'est ça le truc.
Pourquoi ?
C'est que je suis vraiment rentré dans un stade de ma vie où j'ai absolument pas le choix. J'ai plus le choix que de faire du sport, bien dormir, remanger relativement bien. Tu vois, les trucs de base ne sont plus une option, quoi. Sinon, je me sens. Sinon, ça ne va, je ne sais pas, je ne sais plus fonctionner. Enfin, je sais fonctionner pour aller ouvrir au facteur et encore. Mais pour ce que je dois faire, pour ce qu'on doit faire, c'est impossible. C'est impossible de se sentir bien, c'est impossible de se sentir. Tu vois, parce que moi, j'ai ce qu'on appelle dans le jargon un peu une espèce de radio caca dans la tête.
Ok.
Qui est allumé en permanence, tu vois, c'est une radio qui veille, quoi, voilà, il y a pas beaucoup de musique, il y a beaucoup de blabla de merde, et au plus, si je manque de sommeil, si je manque de sport, si je fais pas toutes ces choses-là élémentaires, si je mange mal pendant 2-3 jours d'affilée, le volume de cette radio augmente, quoi. Et d'habitude, je peux gérer, je peux me dire, ah, voilà, je sais pas, tous les pensées de t'es pas à la hauteur, t'es machin, qu'est-ce que tu fous là, ça n'a aucun sens, blablabli, blablabla, et souviens-toi, l'été dernier, tout ça. Ben, je sais, en tout cas, je fais beaucoup de travail pour réussir à le contrôler, pour réussir à vivre avec. Mais en tout cas, vivre avec, c'est soit l'hygiène de base, soit des gros antidep que je ne. Enfin, c'est une piste que j'ai même pas encore explorée, mais voilà, tant que je peux avoir accès à de la chimie naturelle, j'essaye de gérer avec ça. Et voilà. C'est vraiment parce que je vois une psy en ce moment qui essaye de me donner des tâches assez simples. Par exemple, elle me dit, bon, bah voilà, vous levez, vous faites 10 minutes de sport. Et voilà, parce que moi, j'ai aussi un autre gros problème, c'est la ponctualité et les retards. Et donc, tout ce qui concerne l'organisation de manière générale. Mais la manifestation la plus visible de ce manque d'organisation, c'est mes retards. Et donc, un truc qui m'a beaucoup aidé, enfin, qui m'aide beaucoup en ce moment, c'est au lieu de me dire à la fin de la journée, ah ben voilà, tel rendez-vous, je suis pas arrivé à l'heure. Elle me dit, mais fixez-vous juste un rendez-vous, juste un dans la journée où vous arrivez à l'heure. C'est le truc le plus important de la journée, c'est ça. Et tout le reste, vous mettez, elle me dit de faire un journal intime qui est un espèce de, le JDR, je l'ai appelé pour les intimes, c'est le journal des ratés. Et donc toute la journée, je me fais une liste de toutes les choses que j'ai ratées. Voilà, tous les messages que j'ai pas envoyés, les arrivées en retard, les mails pas lus, tout. Parce que de toute façon, c'est quand même là. De toute façon, ça existe quand même quelque part dans un espèce de nuage un peu obscur au-dessus de ma tête ou autour de moi. Tu vois, c'est quand même dans mon propre cloud. Et du coup, pour ne pas devoir un peu détourner la route quand je marche dans ma tête, ben je peux noter tout ça sur ce journal et ça m'aide beaucoup. Et donc j'ai fait ça et puis la semaine d'après elle m'a dit mais en fait maintenant faites 15 minutes de sport et là j'étais genre non, c'était trop et du coup je l'ai pas fait et ben je l'ai payé quoi. Et en fait, c'est elle qui me disait non, mais c'est devenu indispensable, quoi. Je veux dire, c'est comme mettre des lunettes si t'es bigleux, en gros, ça n'a rien de personnel. Mais c'est un peu une aide à la vie. Donc voilà. Et c'est cool, hein. C'est cool. Mais c'est pour ça que j'admire vraiment les gens comme toi ou les gens même dans le stand-up, les gens plus jeunes. Que je vois avoir une hygiène de vie quand même relativement correcte, alors qu'ils sont même pas obligés, tu vois. Ça me fascine complètement.
Mon hygiène de vie est pas... Je te rappelle que cette nuit, j'ai bossé de 3 heures à 6 heures.
Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais je veux dire, tu n'es pas déglingué.
Non, mais parce que
alors
j'ai...
que tu pourrais, je veux
ouais,
dire,
mais
tu pourrais...
Ouais, mais j'ai la flemme, en vrai. C'est surtout
déglingué.
La paresse de... Ouais, j'aime beaucoup dormir, donc déjà, bah ça c'est un plaisir plus qu'une corvée. Boire de l'alcool, j'aime beaucoup, mais j'ai un métabolisme qui me permet d'être saoul très très vite.
Ouais, c'est vrai que ça c'est très pratique.
Et puis, ma meuf mange sain et fait du sport, donc ça pousse hyper fort d'être entourée de gens qui ont ça comme mécanisme de base. Mais sinon, j'ai pas l'impression d'avoir un mode de vie hyper sain. C'est juste que je suis très organisée parce que sinon j'ai peur de ouf.
Ouais.
Mais du coup, tu fais quoi si t'es en retard? Enfin, t'étais où avant? Avant tout.
Je crois que c'est vraiment la question qu'on m'a le plus posée dans ma vie. Mais t'étais où? Non, mais c'est une grande honte parce que vraiment le nombre de gens, si j'accumule le nombre de minutes que des gens m'ont attendu dans toute ma vie, vraiment c'est un demi seigneur des anneaux quoi. Non, mais c'est beaucoup.
T'aurais le temps d'avoir une autre relation avec eux en fait.
Ouais, exactement. Je suis souvent dans ma tête dans des univers parallèles où, par exemple, il y a un univers où je suis tout le temps arrivé à l'heure, mais je n'ai pas du tout la même vie. C'est une autre réalité virtuelle quoi. Enfin et j'ai l'impression d'en plus passer ma vie à rechercher l'espèce de faille spatio-temporelle pour retrouver cet univers là.
Mais t'es comment dans cet univers là?
Mais déjà je suis même pas sûr que je suis humoriste en vrai.
Tu fais quoi alors?
Je sais pas, je pense que je suis président d'un truc. Je pense que je suis vraiment un mec qui gère de ouf et qui, s'il gère pas, il est peut-être mort jeune d'un accident de voiture parce qu'il
a voulu arriver à l'heure et...
Non, pas du tout, non, au contraire, même pas de sa faute quoi, un événement très fortuit quoi. Tu vois, il y aurait que les circonstances extérieures qui auraient pu être cause de négativité dans cette vie-là quoi. Si j'étais arrivé, non, mais parce que en plus, on se rend pas compte, mais ça a vraiment des conséquences horribles. Et c'est bizarre parce que en plus, j'arrive à être en retard, mais avec relativement beaucoup de précision. Donc c'est-à-dire que c'est toujours genre dans les 10-15 minutes qui suivent. Tu vois, parce que tu pourrais avoir un côté foutu pour foutu, j'arrive une heure après, bon, il m'est déjà arrivé d'avoir plus rendez-vous avec mon voisin et puis d'arriver le lendemain, tu vois, pour une fête parce que je préférais garder Chouan à la télé, mais d'un autre côté si j'ai vraiment rendez-vous, enfin aujourd'hui dans ma vie adulte et sobre et pseudo-organisé, c'est souvent des 10-15 minutes et donc c'est souvent le même scénario où en fait à l'heure où je dois arriver, je suis en train de courir quelque part après un bus, et puis j'arrive en transe totale 10-15 minutes après. Et donc, ça veut dire que, en gros, si je pouvais juste reculer de 15 minutes tout mon modus operandi, normalement, je devrais arriver à l'heure, mais j'arrive pas à le faire. Et ma psy actuelle essaie d'expliquer ça par le fait que je sois addict, puisque j'ai une nature dépendante, que je sois addict à cette adrénaline, à ce que j'appelle un peu la porte de garage de MacGyver. Je sais pas si t'as vu MacGyver dans ta prime jeunesse.
Non. Mais je sais qu'il faisait des trucs trop fous, mais...
Oui, il y avait le truc de genre, il fait une bombe avec trois cure-dents, mais aussi... C'est une trilogie. Mais aussi genre, dans le générique, il y a un moment où, tu vois, ça fait ta-ta-ta-ta-ta-ta. Enfin, il y a plein de bombes qui explosent et tout. Et donc, il y a plein de petits moments où, en fait, il est en train d'échapper au dernier moment d'un truc, tu vois, de sauter d'un avion, voilà. Et puis, il y a un moment, vers la fin du générique, où il passe, il y a une espèce de porte de garage qui est en train de tomber, enfin, qui est en train de se fermer. Et lui, il arrive et il se glisse juste en dessous de la porte de garage et il arrive à sortir à la dernière seconde. Et en gros... Voilà, j'ai l'impression que moi, c'est ce que j'essaie de reproduire en permanence, sauf que souvent, je me prends la pompe dans la gueule. C'est un peu ça. C'est que moi, je me travaille dans la vie avec des boss virtuels de nombre de fois où je me prends cette porte dans la gueule. Donc peut-être qu'il y a un côté sadomaso, j'en sais rien, mais il y a vraiment un problème. Là, c'est vraiment devenu un problème que j'essaie de gérer comme je sais pas moi, une luxation quoi, tu vois, comme un problème physique très fort quoi. C'est parce que là c'est vraiment devenu un handicap au jour le jour, parce que ça change vraiment ton rapport avec les gens et en plus, au plus t'avances dans la vie, au moins t'as d'excuses quoi. Et donc du coup voilà, maintenant j'essaie d'y aller petit à petit et de voir comment je peux faire ça, mais j'arrête de me dire un jour je serai à l'heure. J'arrête de voir ça comme un espèce de problème secondaire quoi. Là maintenant, j'essaie de vraiment gérer ça comme un problème primaire quoi.
Moi, j'avais beaucoup ça il y a quelques mois, et c'est de nouveau à cause de ma meuf qui me faisait remarquer que je suis tout le temps en retard et tout. Et donc dès qu'on partait ensemble, elle vraiment extériorisait le fait qu'il fallait bien partir à l'avance parce qu'ils allaient être en retard et tout. Et donc maintenant que j'arrive souvent en avance, bah c'est chiant en fait.
Mais exactement. Moi, non, mais voilà.
J'ai pas envie
d'attendre
les autres.
Mais je sais très bien. Mais c'est ça qui est horrible et c'est tellement égoïste. Non, mais c'est vrai.
C'est ouf.
Parce que moi aussi je suis là. Mais attends, mais je vais faire quoi? Si j'arrive même 10 minutes avant, je fais quoi de ces 10 minutes? Je crois que j'ai 10 minutes à donner comme ça. Alors que je demande à tout le monde de m'attendre 10 minutes de plus parce que moi, j'ai pas envie d'arriver plus tôt. Mais en fait, qu'on se détrompe. Je dis ça, mais c'est pas pour ça que ça m'a aidé. Mais un jour, j'ai constaté que parfois, en fait, il se passe des trucs quand t'arrives à l'avance. Que, en gros, parce qu'un jour, j'avais une réunion Zoom. Genre, je sais plus, à 9h30, et enfin, je croyais que c'était à 9h30, mais en fait, c'était à 10h, et donc, du coup, naturellement, j'arrive à 9h45, en étant hyper, je suis désolé, et puis en fait, je vois que les gens, déjà qu'il y a des gens, tu vois, qui discutent, mais de manière très tranquille, pas avec cette ambiance de la réunion à commencer. Ah, voilà. Ah, enfin, Eno, bravo, clap, 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 encore en retard. Donc rien, personne me dit rien, donc je suis là. Et donc je suis un peu les conversations, et les gens étaient dans des conversations très, très intenses et tout. Et puis je me dis, mais pourquoi on parle pas? Je fais, hey, ça va et tout. Et puis en fait, je me rends compte que la réunion, donc, avait lieu, à 10h, quoi. Que j'étais pas en retard, que j'étais en avance. Et donc de voir qu'en fait, tous ces gens qui, eux, savaient l'heure juste de la réunion, et donc qui avaient décidé, consciemment, sur Zoom en plus, d'arriver en avance, j'étais là, mais c'est un autre peuple, tu vois, c'est un autre monde, c'est des gens que je ne croise jamais. C'est comme les gens au spectacle, par exemple, maintenant, tu vois, avec tous les reports qu'il y a eu avec les confinements et tout, parfois tu te retrouves à jouer devant des gens qui avaient leur place depuis la blinde chez la blinde, et je leur dis chaque fois, mais vous et moi, on vit pas dans le même espace-temps, quoi. Mais bref, et donc du coup, ces gens, donc dans la réunion Zoom, ils parlaient. Et j'étais là, mais et ils prenaient des décisions et tout. Et donc, quand la réunion a commencé, ben il y avait déjà un peu des enjeux qui avaient été éclaircis, déjà des choses qui avaient été établies. Et j'étais là, mais en fait, tous ces temps où j'étais en retard, les gens ils décidaient des trucs dans mon dos, quoi. Sans, tu vois. Et donc, en gros, tu prends ce qui reste quand t'arrives. Ouais, tu vois, c'est vraiment comme si la vie est un buffet et quand t'es en retard, ben tu prends la tranche de jambon de Paris qui reste. Voilà, et les apéricubes. De... Et toi, t'es là, bah c'est pas grave, voilà. Mais en fait, tu savais pas que juste avant, il y avait un pain surprise avec des trucs de fou. Et donc du coup voilà, j'ai pendant une, en tout cas cette constatation là ça m'a permis au moins d'arriver à l'heure pendant une semaine, je pense, après. Mais le problème, c'est que voilà, c'est pas seulement de savoir que t'as un problème, c'est de tu vois, c'est vraiment une habitude, quoi, tu vois. Donc c'est horrible,
et surtout qu'en général j'ai l'impression que c'est pas souvent c'est une conséquence d'autre chose, tu vois, c'est un symptôme. Moi, le symptôme de quoi, c'était parce que j'avais pas envie d'y aller, en fait.
Ah, tu penses?
Ou que ce soit, j'avais pas envie. Je préfère toujours rester chez moi que de faire n'importe quoi dans le monde.
Ouais.
C'est pour ça que voilà. C'est juste que jusqu'au dernier moment, je me disais peut-être j'irai pas.
Ouais.
Et puis, bah, j'arrivais 15 minutes en retard. Mais du coup, maintenant, des fois, je mets mes rendez-vous 15 minutes à l'avance dans mon agenda, mais pas tous. Comme ça, je suis jamais sûre desquels sont à la bonne heure ou pas. Et donc, je suis obligée d'arriver à l'heure.
Ah ouais. Oui, mais moi, ça, c'est. Classique, basic stuff. Genre, tous mes rendez-vous sont une demi-heure avance dans mon agenda. Ma montre elle-même est.
Déjà,
genre,
t'as un
15
agenda.
Minutes. Ouais, déjà.
Ça m'étonne.
Enfin, Google a inventé un agenda que j'utilise. Ouais. Si c'était de ma propre initiative, je pense que je serais encore avec des post-it. Mais donc voilà. Mais ça marche qu'à moitié. Parce que du coup, parfois, je me dis, enfin, peut-être que t'as ce problème-là aussi. Quand le rendez-vous dit 15, quand il dit, ah ben voilà, bientôt votre rendez-vous de 15h, tu dis, mais est-ce que c'est un rendez-vous que j'ai mis à l'heure? Est-ce que c'est un
rendez-vous en retard et je serai à l'heure?
Oui, voilà, exactement. Ouais. Et j'ai eu ça. J'avais un rendez-vous chez une psy, une autre psy en plus. Non, mais j'essaye de trouver des solutions, ok? Et chez une autre psy pour gérer précisément ce problème-là, un truc de comportemental. Et le truc, c'est que je suis arrivé une demi-heure en retard parce que je pensais que j'avais décalé, mais j'avais pas décalé. Et du coup, elle me dit, non, désolé, c'est trop tard, quoi, là, on peut plus, et j'étais là, mais t'imagines que j'ai un handicap qui fait que je n'ai même pas accès aux soins pour gérer ce problème, quoi. Tu vois, c'est un peu le paradoxe de l'araignée affamée. Tu vois?
J'en connais très peu.
Eh ben, moi, j'en ai beaucoup dans mon jardinet. Et en fait, le truc, c'est qu'une araignée, bon, là, il fait beau, c'est la canicule et tout, c'est cool parce que, genre, elles peuvent tisser des toiles. Tu savais que si tu peux observer la météo, dans une toile d'araignée. Genre, en fait, elles sont hypersensibles C'est un peu des espèces de baromètres vivants, tu vois. Elles sont hyper sensibles à la pression atmosphérique parce qu'en gros, le truc, c'est que si elles se cassent le cul à faire une toile digne de la chapelle Sixtine pour que deux jours après, il y ait une drache de dingue et qu'elles doivent s'abriter, ben, elles vont pas se casser le cul. Donc, du coup, elles font des espèces de toiles un peu brouillonnes, etc. Et quand il va faire beau, même avant qu'il fasse beau, même si dehors et tout, si c'est encore orageux, eh ben, elles vont commencer à tisser des trucs hyper précis, hyper réguliers, hyper perpendiculaires. Et donc, si tu vois qu'une araignée se casse le cul à faire une toile de malade, c'est qu'il va faire beau. Bref, tout ça pour dire que ça leur coûte énormément d'énergie de tisser une toile, et que, mais c'est leur moyen de subsistance. Donc, d'où le paradoxe de l'araignée affamée et crevée, parce que elle est dans un dilemme, tu vois, entre pour manger, il faudrait que je tisse une toile, mais en même temps, je n'ai pas l'énergie de le faire. Tu vois. Peut-être je vais mourir pendant que je tisse ma toile.
Ouais.
Mais si je le fais pas, je vais mourir quand même, sauf si on m'apporte un moustique mort là maintenant devant moi, quoi. Ce qui a quand même peu de chance d'arriver. Et donc voilà. Et moi, j'ai souvent l'impression d'être dans cette position-là, quoi. De devoir faire des choses pour accéder à plus de bien-être, à quelque chose de supérieur, mais de même pas avoir l'énergie suffisante de base pour le faire, quoi. De pas avoir de manquer des ressources pour avoir plus de ressources.
Mmh.
Et donc voilà. Souvent, du coup, j'ai faussement l'impression que je vais mourir, mais.
Tu veux que je te donne
mais
un moustique?
Mais ça va quand même. Quoi?
Tu veux que je te donne un moustique?
Ah oh oui. Je ne porte pas des moustiques de temps en temps. Ça me ferait plaisir. Mais non, mais c'est vrai. J'ai besoin de gratification immédiate, en fait. C'est ça mon problème. Et dès que c'est un truc en 12, enfin, tu vois, le lapsus quand je dis en 12 étapes, c'est parce que je suis dans un processus en 12 étapes par rapport à ma dépendance. Ben ça paraît très très long, quoi.
Ouais, mais d'un côté, moi ça m'aide beaucoup dans les gros projets, justement, de diviser énormément. Et comme ça, je me dis aujourd'hui, je fais un dixième du troisième chapitre. Et comme ça, c'est un tout petit truc. Et donc, t'as vite la gratification de ah, j'ai bien bossé, j'ai fini. Alors okay. que t'as pas avancé tellement, mais c'est juste que t'as un point sur ta to-do list, quoi. Tu vois?
Mais alors, ça veut dire que t'acceptes. Moi, c'est le vrai problème, c'est d'accepter. Que en fait, ce que je veux faire va prendre la blinde de temps. En fait, c'est ça. C'est que moi, j'ai tout le temps l'impression. Après, c'est deux choses. Je crois que c'est deux problèmes différents. C'est à la fois, j'ai l'impression que la fausse impression que je suis capable de faire, disons, 7 trucs dans la journée, et que les autres, si quelqu'un de plus ou moins en bonne santé physique et mentale était à ma place, serait capable de faire ces 7 trucs. Du coup, je les mets et au final, j'en ai fait que 2. Mais je me dis pas, ah, en fait, je suis quelqu'un qui suis capable de faire 2 trucs. Non, je me dis, si j'étais nanani nanana, je serais capable de faire ces 7 trucs. Mais au final, souvent, on vient me dire, mais alors accepte que tu sais ne faire que 2 trucs des 7. Mais alors je dis, si je suis quelqu'un qui fait que 2 trucs, mais je suis pas du tout au bon endroit. Parce que je ne suis pas dans le genre d'activité où les gens qui font 2 trucs par jour réussissent. Tu vois ce que je veux dire?
C'est pour ça que t'as mis 12 ans à faire ton spectacle.
Par exemple, et qui n'est pas encore tout à fait terminé d'ailleurs.
Et qui ne sera jamais fini.
Non.
Parce que t'es genre le mec le plus flemmard perfectionniste que je connaisse.
Oui, oui, bah après, voilà, je travaille dessus. Hein, mais là maintenant, je me suis fixé vraiment une deadline. Là, ça y est, là, c'est genre janvier, je fais un showcase de là où ça en est pseudo définitivement, quoi. Et puis, basta. Voilà, je reviens, je fais le TTO en février. Et ce sera un peu la version définitive parce que je me dis aussi, maintenant une manière d'avancer aussi c'est de dire ok, je verrouille ce spectacle et le reste ce sera pour un prochain.
Ouais.
Parce que sinon c'est vrai que c'est un peu, enfin voilà quoi, tu vois, j'ai pas envie de faire une Adrien Arnoux, on l'embrasse. non mais voilà, c'est aussi une question d'humilité quoi finalement. Une question d'humilité et de se dire bon bah c'est pas grave, je fais voilà, c'est pas grave si c'est un peu nul le premier spectacle, c'est un premier spectacle au final.
Surtout
tu vois,
qu'il est très bien.
Non mais après le truc c'est que au plus, merci c'est gentil, mais est-ce que t'as déjà été à Montréal toi finalement ou pas depuis?
J'y suis allée par rapport au stand-up ou dans la
ouais.
vie. J'ai fait 2-3 plateaux au bordel et tout, mais c'est
ouais.
tout.
Ben ouais, ben moi le truc c'est que en ayant passé 1 an et demi là-bas, ben j'ai l'impression d'avoir eu un aperçu de ce que c'est des gens qui bossent vraiment en humour et qui font du travail qualitatif et qui sont hyper productifs et machin. Et que donc, ben, l'échelle sur laquelle je m'évalue Ben, elle est encore par rapport à ça. Et donc, c'est sûr que du coup, je suis, ouais, c'est un peu se condamner à de l'insatisfaction permanente. Mais d'un autre côté, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une grosse marge d'amélioration. Et je suis là, ben, il faut essayer. En fait, le truc, c'est que j'ai quand même envie de laisser un produit que je suis capable d'assumer à 100%, quoi.
Et là, tel qu'il est là, ouais, t'as pas l'impression que tu peux l'assumer entièrement?
Pas encore tout à fait, non. Mais pas, ou encore pas encore de la manière dont c'est vendu. Et c'est ça pour l'instant, aussi ce sur quoi je vais travailler, c'est par rapport à l'image publique avec 36 guillemets, c'est sur les réseaux sociaux, etc. C'est de pouvoir vraiment assumer le côté work in progress, quoi. Parce que j'ai l'impression, ou on a l'impression, je sais pas pourquoi il y a cette impression, que tu dois absolument vendre un produit fini, clinquant, blinquant, qui est là, et c'est super, et vous allez passer un super moment, et nanani, nanana. Et c'est sûr que peut-être que le doute, justement, no pun intended, fait peut-être moins vendre d'une certaine manière, mais c'est tellement plus en accord avec ce que je suis, avec ce avec quoi je vis, que je sais que je serais beaucoup plus à l'aise de véhiculer une image du mec qui essaye, plutôt que du mec qui sait. Tu vois?
Alors là, deux choses. Premièrement, moi, typiquement, j'ai l'impression que justement, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est les mécanismes derrière le résultat qu'on voit et les milliards de questions et le fait qu'en plein milieu d'une soirée où tout le monde est en train de jouer à un jeu, de boire de l'alcool et tout, d'un coup, tu vas te figer et tu vas poser une question qu'on s'est jamais posée et puis on se dit, mais comment je me suis jamais posé cette question fondamentale dans ma vie? Et t'as ce truc d'aller creuser dans des trucs auxquels voilà, on s'était jamais confronté. Et typiquement, moi, t'es le genre de personne que j'aurais envie d'écouter parler. Tu vois, là où je m'en fous si tu mets une story pour dire que tu joues à La Roche-sur-Yon. Par contre, si tu me dis, voilà, c'est un podcast où toutes les semaines, je parle 30 minutes de tout ce qui me passe par la tête.
Ouais,
sais que 30 minutes, ce sera court pour toi.
Oui, je sais. La concision. Ouais.
Et juste, tu parles justement de tes doutes, de pourquoi t'es pas satisfait, de n'importe quoi que t'as lu, que t'as vu. Et tout. Ça m'intéresserait de ouf. Et je pense justement que c'est un truc qui se voit pas assez. Les questionnements, on voit plein de réponses, on voit jamais les questions.
Ah bah merci, ça me fait plaisir et ça me rassure. Merci de me dire ça parce que c'est vrai que je sais que c'est en tout cas là, la discipline que je me suis mis. Maintenant que je vais habiter à Paris, c'est de faire 15 nouvelles minutes toutes les 15 jours. Je fais mon spectacle deux fois par mois et donc je joue tous les 15 jours. Tous les 15 jours, je fais 15 nouvelles minutes. Mais du coup, c'est sûr que dans ces minutes, ce sera pas forcément abouti. Et ce sera justement des réflexions, des questionnements, des machins, des trucs. Et que du coup, aussi l'image publique, encore une fois, ou en tout cas la promo que j'ai envie d'en faire, que j'ai envie de faire autour de ça, c'est voilà, je tente des trucs, quoi. Et donc d'être à l'aise avec ça. Après c'est vrai que ouais, je sais pas, j'ai du mal quand je parle. Maintenant ça va mieux, mais avant j'avais vraiment du mal à ne pas être aussi dans une réflexion de putain, c'est
ouais,
nul ce que je suis en train de
truc,
ouais, voilà. Et donc du coup qui viennent parasiter en fait le moment présent de quand tu dis vraiment les choses et quand ça sort, et tant pis, et d'assumer, tu vois, d'assumer d'être de voilà, tu vois, tu prends la vague et puis tant pis si tu tombes, mais tu fais pas semblant d'être encore sur la planche, quoi. T'es juste tu reprends une autre vague, quoi.
Ouais, mais ça c'est une tant que c'est assumé, je trouve, moi je préfère mille fois quelqu'un qui est comme ça et qui assume ces questionnements là que quelqu'un qui fait semblant de ne pas en avoir et qui est un peu dans l'entre-deux, tu vois.
Ouais.
Dans je me prends la tête de ouf, mais j'ose pas le montrer, et du coup, c'est un truc un peu hybride, chelou, quoi.
Oui, mais c'est ça, c'est un peu le problème que j'ai, parce qu'il y a des gens très gentils et très bien intentionnés qui veulent m'aider justement à assumer un peu mon côté, j'ose pas trop me lancer sur les réseaux et tout. Mais du coup, moi, je suis là avec tous mes questionnements et mon truc et mon genre, voilà, ma tête, c'est une brocante, quoi. Et de l'autre côté, au final, quelqu'un va faire des posts Instagram un peu à ma place en mode yes et genre salon de l'auto, tu vois.
Ouais.
Et du coup, je suis là, mais non, moi, c'est le gap est trop, l'écart est trop grand et moi, je me sens pas confortable dans cette espèce de truc hybride, quoi, justement, quoi.
Mais en même temps, ta prod avait essayé de te faire un compte Insta, justement, où eux faisaient la promo des choses.
Ouais. Voilà, et là je vais reprendre les choses, ou en me disant mais tant pis, c'est pas grave si ça va peut-être moins vite, si c'est moins la course aux followers, aux abonnés, aux machins et aux trucs, et à essayer de se mettre la pression par des trucs qui faudrait faire pour que, je vais juste essayer de faire comme je suis, comme c'est, et puis faire confiance au pouvoir de la vérité, quoi. Je commence de plus en plus à quand même avoir confiance au pouvoir de la vérité.
On dirait un bouquin de Eckhart Tolle ou un truc.
Exactement. Eckhart Tolle. Non, mais c'est parce que moi j'ai beaucoup vécu dans le mensonge, tu vois. Grâce à la dépendance, sans qui je ne serais pas là. Je t'ai à remercier. Parce que comme tu le sais peut-être. J'ai longtemps bu de l'alcool, entre autres, mais c'était quand même mon problème principal, quoi. C'était vraiment quelque chose qui, là encore, genre sans ça, ma vie aurait aussi. Il y a une version de moi sobre quelque part, sobre et ponctuel, quoi. Je ne sais même pas ce qui est devenu ce gars-là. Il voudrait même pas me parler, je crois. Et donc c'est pour ça que c'est bizarre, parce que du coup j'ai l'impression que ma vie actuelle, c'est un peu une espèce de dystopie par rapport à ce moment où j'ai commencé à boire et qui m'a amené ici. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, quand t'as une addiction et quand t'es et je me sens à l'aise d'en parler parce que je sais qu'il y a d'autres. Il y a Jérémy Ferrari qui en parle beaucoup. Voilà. Mais donc voilà, moi je suis un peu une version oui, je l'ai ça, Jérémy Dacia. Bonjour. Du coup, tu vis beaucoup dans le mensonge, quoi. Tu vis beaucoup dans la dissimulation, t'essayes de te créer une espèce de carapace pour que les gens ne captent pas, et en même temps t'essayes un peu de garder la face, t'essayes souvent de sauver la face plus que de sauver vraiment ton âme, quoi. Et donc voilà, moi j'ai vu à quel point ça a pu pourrir mes relations avec mes proches, avec moi-même principalement aussi, mais du coup maintenant j'ai un besoin radical d'honnêteté et de vérité qui est tellement fort. Et je pense que c'est le stand-up m'a amené à ça, m'a donné un peu l'espèce de, tu vois, le moment où où t'es sauvé de la noyade et où t'es enfin sur la petite bouée rouge du gars d'Alerte à Malibu, là, que tu fais, c'était en allant sur scène, en pouvant dire une espèce de vérité qui soit pas si mal reçue, tu vois, plutôt que cette espèce de malaise sourd que peut créer un mensonge qui sauve les apparences, mais où les gens, tu vois, il y a une espèce d'intelligence supérieure, un peu, je pense, entre les êtres humains qui sait, tu vois, tu sais pas dire, t'as pas de preuves, mais tu sais quand même que c'est pas vrai, tu vois. By the way, rien à voir. Je viens de regarder il y a pas longtemps des fins de Columbo. Tu vois, l'inspecteur Columbo.
Oui, t'as regardé la fin ?
Non, c'était des best-of sur YouTube de Columbo Endings. Et bon, voilà, c'est dans des errances d'Internet. Et on en parlait l'autre jour avec des potes.
C'est là que t'es quand t'es en retard.
Mais par exemple, c'est vrai. Mais comme je dis, le pote, mon voisin chez qui je suis arrivé, c'est parce que je voulais pas cesser de regarder Chouan, qui est un vieux film des années 80 sur la Révolution française. Et il m'attendait une soirée vodka Red Bull et genre j'avais ton âge, quoi. Ça fait toujours
jadis
une soirée en franc belge, du coup, et voilà, parfois c'est vrai que je cale sur des trucs, quoi, et au plus je dois y aller, au plus ben voilà, c'est un espèce de mécanisme de procrastination de ah non mais c'est tellement intéressant, putain, non attends, là il y a la prochaine vidéo, ça parle de comment reconnaître un caméléon même quand on le voit pas, et je suis là ok, bref. Et donc Columbo, et donc on se disait avec des potes que c'est marrant parce que c'est pour dire que, tu vois, le gars qui repère toujours la vérité même quand la personne ment, parce que là on est vraiment l'assassin, tu le connais depuis le début, mais pendant tout l'épisode il essaye de se faire pote avec l'inspecteur en disant mais venez, mais asseyez-vous, mais qu'est-ce que vous voulez boire monsieur l'inspecteur, mais je vous en prie, vous connaissez ma femme, ah non elle est morte, c'est moi qui l'ai, enfin non il était pas mais donc il
chelou Columbo. Ouais.
Et à la fin il fait toujours une espèce de démonstration de hey gacha, genre hey voilà, vous avez dit que vous étiez là à midi, mais en fait c'est pas possible parce que à midi on a changé d'heure et en fait il était 1h et vous avez oublié de remettre là et puis la montre il y a plus de piles, enfin bref, tout un truc un peu chelou qui fait que la personne dit oui vous dites ça mais est-ce que vous pouvez le prouver, et donc là tout le masque tombe et Columbo dit mais bien sûr que je peux le prouver, et puis alors il sort un espèce de truc de son chapeau de mais parce que en fait je ne sais pas, vous avez dit que ce monsieur là avait un pull jaune et en fait il avait un pull vert et personne n'a jamais parlé de la couleur du pull, il y a que vous pouvez le savoir. Ta-da-da. Et puis l'épisode se termine et puis le gars suit l'inspecteur un peu battu comme s'il avait perdu une partie d'échecs et que il allait pas du tout en prison à vie quoi. Donc c'est très impressionnant ça. Mais donc tout ça pour dire que tu vois, c'est ça.
Mais ça doit être le nom de ton spectacle en vrai. Hein.
Digression.
Tout ça pour dire que.
Ouais. j'avoue que c'est un truc que je dis en plus souvent quand je suis sur scène. Mais que les gens savent quand tu mens et que quand ils le savent pas, enfin voilà, c'est un truc à la con, tu vois, que même tous les parents disent, la vérité finit toujours par se savoir. Moi, j'ai été élevé par des personnes qui étaient tellement plus âgées que moi et qui me disaient ça tout le temps. Et maintenant, je commence vraiment à me rendre compte à quel point c'est vrai, quoi. En tout cas, je me suis rendu compte, je peux pas dire que la vérité éclate toujours, parce qu'évidemment, on sait toujours pas qui a tué Kennedy, par exemple. Mais je connais le pouvoir destructeur du mensonge. Et donc, et c'est maintenant quelque chose qui me fait très peur et que j'essaye d'éviter par tous les moyens. Et le problème, c'est que les réseaux sociaux, ben, c'est beaucoup, il y a quand même beaucoup de paraître, quoi. Et donc, au point où je me demande, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui soit vraiment fait pour moi, tu vois? Parce qu'il y a quelque chose aussi j'ai un truc d'un peu d'attraction, répulsion, parce que j'apprends aussi beaucoup d'informations par ces biais-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans, tu vois, tout ce qui est un peu déconstruction et tout, c'est quand même, ça passe beaucoup par les nouveaux médias et pas encore par les anciens.
C'est vrai que Colombo, très peu déconstruit.
Très peu déconstruit, Colombo. Ben, quoique quelque part. Hein. Il faudrait regarder parce que je suis pas sûr que.
J'attends l'analyse de Colombo par Lorraine Bastide.
Ouais. ça s'appellerait Absente et ça parlerait que de la femme de Colombo. Donc. Je suis content d'être sur les réseaux sociaux pour apprendre des choses, mais j'ai l'impression que quand je publie un truc, quand je fais une story, etc., déjà ça me prend tellement de temps parce que je me prends tellement la tête avec les filtres, la musique, les machins et tout. Et puis, inévitablement, ben ça vient appuyer sur ce truc de gratification immédiate, tu vois, un peu comme le rat dans la cage là qui vient pousser sur le truc pour ressortir la cocaïne.
je m'attendais pas du tout à cette fin de phrase.
De la cocaïne de rat, c'est de la petite cocaïne. Et du coup, je me demande si ça nourrit vraiment quelque chose, si ça nourrit pas quelque chose de malsain en moi, ou en tout cas quelque chose qui est trop fragile pour être utilisé, tu vois, genre comme quand j'ai eu mes résultats de mes scanners des genoux récemment, et que le gars m'a dit, mais la
courbe... On rappelle que tu as 36 ans.
Oui, exactement. Mais 28 ressentis. Et non, en vérité, j'en ai 39, tu vois. Oh. J'ai pas pu laisser passer le pouvoir dur. De la vérité. Non, ouais, ah, c'est ouais. Très, très dur. Ouais. J'ai un âge qui n'appelle même plus de commentaires. J'ai un âge où tu le dis et les gens font « Ah !» Tu vois, il n'y a plus de « Ah !» Mais ça... Non, c'est « Ah, ok. » Et du coup, mais en même temps, je suis quand même encore trentenaire. Voilà, j'ai quand même encore envie d'être bien, quoi. Tu vois, d'être bien dans mon corps et d'être bien. Enfin, j'ai envie jusqu'à la fin d'être bien.
Mais on peut être vraiment super à 40 et à 50.
Mais bien sûr. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, ce truc de ma vie est une dystopie qui a commencé au moment où je suis parti en couille. Et du coup, c'est comme si maintenant je reviens à la vie et j'ai l'impression d'avoir genre fait mis tout sur pause et que je peux reprendre au moment où j'ai décidé de congeler mes émotions à 18 ans et que je reprends avec mon corps des 18 ans, mais en fait ce n'est pas du tout le cas.
Mais en fait, si tu as 39 ans et que dans ta dystopie tu es président, peut-être tu es Macron.
Exactement. C'est pour ça, quand il est devenu président, j'ai senti un truc. peut-être que quelque part c'est moi et que du coup je peux. C'est... En fait, ce serait tellement confortable de pouvoir observer cette vie et sans l'envier, quoi. De se dire ah ouais, ok, nice, ok. Eh ben merci. Ben voilà.
Ben, et donc tes genoux.
Et donc mes genoux, j'étais en train d'essayer de trouver une manière de réduire le prix de l'essence, mais j'ai pas encore. Mais non, c'est pas moi. Puisque c'est pas moi, pourquoi j'essaye de me casser la tête avec des problèmes qui ne sont pas les miens? Oui, voilà, à mon autre version, qui est président de la République française. Moi, j'ai des problèmes de genoux et j'ai les huissiers au cul. C'est deux vies très différentes. Et du coup, le gars il me dit bon, alors la course, ça va pas forcément être pour vous. Et j'étais là et j'ai vraiment fait un et. Oh man, mais je ne ferai jamais d'Ironman. quand j'ai dit ça à ma copine et elle s'est foutue de ma gueule parce qu'elle était là et, j'étais offusqué par son rire parce qu'elle trouvait ça tellement rigolo que j'imaginais encore un jour faire un Iron Man. Et tu n'as pas l'air d'être moins sceptique qu'elle.
Non, non, mais je comprends. Mais moi, je me suis rendu. J'en ai parlé horrible. Justement avec Thomas Wiesel là, la semaine dernière. Je commence à me rendre compte que je ne serai jamais footballeuse professionnelle.
Mais voilà, ouais. Moi, j'ai ça avec le surf, par exemple.
Ben voilà. Mais c'est.
Ouais.
Mais j'aime bien que ça reste comme. Enfin, tu vois, tant que j'ai pas de problème, tant que je ne me suis pas fait les croisés, j'y crois.
Ouais, ouais, ouais. Oui.
C'est...
Mais après, t'as quel âge, Fanny?
28 ans. Donc
là. Donc ce n'est pas fini.
Non, là, je suis à l'âge où elle commence à penser à l'après, en vrai.
Ouais. Là, oui, mais celle qui commence avant.
En pré-retraite.
Ouais.
Moi, j'ai pris de l'avance sur ça.
Oui, mais donc, du coup, t'as déjà sécurisé des choses qui pourraient faire que tu te consacres que au sport. Il en est où le retour des King Clusters?
Je ne savais pas qu'il était prévu.
Mais il a eu lieu, je sais pas si ça s'est terminé. Ouais, je sais qu'elle avait fait genre un comeback en mode à 36 ans, c'est pas grave, j'ai des enfants, mais je peux revenir et voilà. Et
mais c'est
j'ai
plus
pas
facile
suivi
de revenir quand t'étais numéro 1 que quand t'as été.
Oui, que quand t'as pas été dans le classement.
Churchill Tennis Club.
Ouais. Mais ouais, mais écoute. C'est vrai que c'est des petits deuils à faire,
ouais.
Mais c'est marrant de voir que qu'il y a quand même une partie de nous qui avait encore, tu vois, il y avait encore un chronomètre allumé par rapport à ça. Tu vois que tu dois arrêter, tu dois faire stop, voilà. Mais pour moi, il courait encore, tu vois, le chronomètre du surf, le chronomètre du gars qui va un jour faire le triathlon.
Mais en même temps, pourquoi l'arrêter? Parce que tant que ça reste une source de fun, et tant que si c'est une façon de te motiver à aller courir quand même 3 fois semaine,
ouais.
Même si au final tu le fais jamais, ça fait de mal à personne.
Non mais c'est mauvais, non mais c'était ça, c'est parce que c'était pour c'est de dire vous n'avez pas les genoux pour faire des marathons, monsieur. Oui. Et que j'étais là ok, mais donc, et pareil, donc par rapport à ce que je suis capable de faire en une journée, j'ai peur, j'ai très peur en fait, et je crois que ça me fait procrastiner encore plus, de me dire mais en fait peut-être que je n'ai pas les capacités physiques et mentales de faire, je sais pas, d'écrire un concours, d'écrire un film à Oscar, de faire des chroniques super, de faire un spectacle, de faire tout ça, peut-être que je n'ai pas les genoux pour faire cette course-là, et que c'est ça que je devrais au final accepter, au lieu d'avoir mal, et d'avoir des rotules explosées, et de continuer à courir. Et donc, pour l'instant... Enfin, pour l'instant, je dis pour l'instant, depuis le début. Who am I fooling? Mais je suis toujours, en fait, dans ces questionnements-là. Et en fait, là, maintenant, je me mets dans des conditions en me disant, non, je vais faire 15 minutes tous les 15 jours. C'est beaucoup, tout le monde dit, eh ben, c'est beaucoup, hein. Mais en même temps, quand j'étais au Canada, à l'école de l'humour, on faisait 5 minutes toutes les semaines. Donc c'est un peu la même chose. Quasi à 2 minutes près par semaine. Mais du coup, voilà, pour me mettre dans des conditions qui font que, voilà, là, si ça marche pas, bah tant pis, ça marche pas. Enfin, il y a un côté où j'aurais au moins le sentiment d'avoir été jusqu'au bout, quoi. Et j'ai juste envie d'avoir ça, tu vois. Genre, tu vois, toi, t'es là, je serais pas footballeuse professionnelle. Mais, tu vois, est-ce que tu vas pas plus voir des matchs qu'en faire?
Oui, mais ça, c'est pas un choix.
C'est pas un choix.
Si mes potes, ils étaient chauds pour qu'on en fasse tous les soirs, balèque du stand-up. Moi, je fais du foot.
Ah ouais. Mais tu sais que je sais plus si je t'avais raconté, mais genre où j'étais là, mais le monde a changé, quoi, parce que j'étais en Côte d'Ivoire fin juillet, et évidemment j'avais foiré avec mon passeport et tout, j'avais pas le visa, enfin bref, je me retrouve chez les flics à l'arrivée à l'aéroport direct, et donc voilà, petit commissariat d'aéroport hostile. Il fait 40 degrés Côte d'Ivoire, je sais pas, j'étais pas à l'aise, quoi, parce que j'avais vraiment pas le bon visa, quoi. Donc du coup je me dis ils vont me rentrer dedans et tout. Et en fait, j'arrive et le commissaire, il était les pieds sur son bureau et il me regarde à peine, fait genre attends, quoi, reste là. Et en fait, parce que il regardait la finale de l'Euro féminin avec ses deux autres collègues.
C'était un beau match, hein.
Mais il paraît que c'était un match incroyable, le match avec l'Angleterre là.
Ouais.
Mais c'était, je sais pas. En fait, le truc, c'était d'être dans un univers tellement viriliste et de voir ça. J'étais là, 2022. des jours heureux. Non, mais voilà, le monde a changé, quoi. Le monde change petit à petit, step by step. Donc, il y a ce côté où je me dis, bon, bah, c'est cool. C'est ça. Donc, il y a des moments où je suis là, ah, non, mais en fait, tout va bien, tout est cool, tout on avance, du moment qu'on avance, même un petit peu, c'est bien. Donc voilà, je sais pas, en fait, tu vois. J'avais très peur, hein. C'est ça que je voulais te dire aussi, que de venir au podcast, parce que le doute, c'est ma résidence principale. Et j'avais l'impression que ici, des épisodes que j'avais déjà écoutés, parce que j'en ai quand même écouté pas mal, j'avais l'impression que c'est un peu, c'est pas les gens qui, c'est les gens qu'on croit qu'ils doutent, mais qui doutent pas vraiment. Non, qu'on croit qu'ils doutent pas, mais qui en fait ils doutent, tu vois.
Ouais, ouais, ou qui ont douté, mais qui en ont fait quelque chose et qui sont passés au-dessus, quoi, ouais.
Pas les gens qui doutent. Moi, je suis quelqu'un qui doute. Je doute au cube, là. Donc voilà, mais écoute, je suis là. Merci, d'ailleurs.
De rien. Mais pour tantôt j'ai commencé un truc en disant deux choses et puis j'en ai dit qu'une.
Oui.
Et en fait ça rejoint ce que tu viens de dire sur Montréal et tout. C'est que j'ai l'impression que tu vois quand tu dis que à l'école nationale de l'humour de Montréal ils t'ont appris à genre ouais faire 5 minutes par semaine, ils bossent de ouf. Il me semble que ils choisissent un 5 minutes et ils bossent 3 mois dessus, un truc du style, c'est ça à la fin.
À la fin, ouais. Donc au début tu fais 5 minutes toutes les semaines. Mmh. Devant tes comparses, et c'est un moment très intense et très difficile, puisque en fait, t'es devant des professionnels qui te jugent très fort et qui vont rigoler très fort si c'est drôle, hein. Mais si ça sent la paresse, qui était quand même souvent mon cas, tu vas être encore plus, tu vas pas être encouragé, tu vas pas avoir un slow clap de bien essayer, non, c'est genre get out of here, tu vois. Donc, ça, c'est très dur. Mais ça pousse, voilà, tu en fait et je trouve que de manière générale au Canada, en tout cas de mon expérience au Québec, il y a quand même beaucoup de problèmes comportementaux qui sont gérés par la pression sociale. Et donc à la fin de l'année, il y a un espèce de show de fin d'année. Et donc ça veut dire que de tous les 5 minutes que tu as présenté, 3 mois avant la fin de l'année, tu dois en choisir un que tu bosses pendant 3 mois. Donc genre d'imagine de septembre à mars, toutes les semaines tu présentes 5 minutes et puis en mars on te dit bon bah voilà, tu vas choisir ton 5 minutes que tu vas présenter en juin. Et puis après on va retravailler celui-là de manière ponctuelle.
Ça tu vois typiquement moi c'est un truc où je me dis peut-être vous allez un peu loin.
Pourquoi ?
Parce que oui, en vrai le stand-up c'est du travail d'orfèvre, trouver le bon mot, le bon truc machin, mais des fois le truc, enfin des fois juste ça vient vite. Des fois, ouais. T'as un truc immédiat et c'est pas toujours nécessaire de traîner aussi longtemps sur un texte. Et donc, je pense que ça dépend. J'ai l'impression que c'est un peu une loi de Pareto pour le travail, dans le sens où de Pareto, c'est un économiste.
Okay.
Tu passes 20% du temps sur 80% du travail. Et puis 80% du temps sur 20% du travail, tu vois. Mmh.
Attends, pardon, excuse-moi, parce que j'étais avec une obscure blague de Pareto par retard, et voilà. Bref.
Oh merde.
mais ça avait vraiment du sens, parce que tu vois, toi tu me parles de Pareto, et moi je suis vraiment quelqu'un de Pareto. Ouais, bref, je veux pas mais je l'assume. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je connaissais. Donc répète, parce que j'avais...
Donc tu passes, ouais, 20% du temps sur 80% du résultat. Et puis 80% du temps sur 20% du résultat, quand t'essayes de peaufiner et tout, c'est ce qui prend le plus de temps.
Ouais,
qu'en vrai, c'est les 20% derniers pourcents, tu vois. Donc ça dépend un peu ce que tu vises. Si tu veux le truc parfait et tout, oui, en effet, tu vas devoir atteindre les 100. Mais j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire dans tout, tu vois.
Non.
Enfin. J'ai pas l'impression de bâcler tellement de choses, mais souvent, je sais que je suis pas à 100 et c'est ok, tu vois.
Oui, mais aussi, tu ne ressens pas non plus qu'on te dit « c'est pas assez ». Tu vois, souvent, t'as quand même une réponse. Parce que c'est ça qui est un peu, au final, le juge ultime, c'est un peu le feedback que tu vas recevoir. Et là-bas, bah, comme il y a une culture du stand-up tellement poussée aussi dans le public, les gens sont plus drôles dans le public souvent que les gens qui font de l'humour professionnellement ici, tu vois. Du coup, la barre et les attentes sont très hautes, quoi. Et les gens attendent presque ce genre de perfectionnisme de la part des gens qui sont sur scène, quoi. Et donc, pour être surpris, il faut vraiment aller les chercher loin. Ouais.
J'ai l'impression qu'ils rigolent tellement fort.
Mais ils rigolent très, très fort. Quand quelque chose est bien fait, ils rigolent très fort. Et ils se lèvent. Ce truc qu'on fait trop rarement ici, quoi. Mais après, le truc, c'est que, je te disais, c'est 5 minutes, on retravaille. Mais la différence entre le 5 minutes que t'as en mars et celui que t'as en juin, c'est normalement, si t'as bien bossé, elle est énorme. Tu vois, t'es vraiment censé. Et moi, c'est le problème. Moi, je me souviens, j'ai eu un conseil de classe à la fin de la première année où tous mes camarades se sont mis en rond et m'ont un peu clashé en mode « Mec, tu bosses pas assez, etc. » c'était un moment assez intense parce que tu, c'est là où tu vois vraiment l'importance que ça a, quoi. C'était, on n'était pas sur un feedback du What the Fun. Hein. Je sais que ça, c'est un peu inside de dire ça, mais c'était vraiment un truc où personne par personne te disait non, mais en fait, ce qui va pas, c'est ça, ce qui va pas, c'est ça, ce qui va pas, c'est ça. Et moi, souvent, c'était tu ne travailles pas assez, tu ne prends pas assez l'humour au sérieux, quoi.
Et c'est un truc culturel aussi, non?
Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que mon 5 minutes n'avait pas changé tant que ça entre mars et juin, quoi, et que j'avais pas assez bossé. Et voilà.
Mais donc, tu faisais quoi alors? Parce que t'es quand même parti au Canada pour aller étudier à l'école nationale de l'humour.
Oui, mais je suis parti tout qu'à bosser, quoi. Moi, je suis parti en deux chevaux avec une roue de secours, avec deux roues de secours. Enfin, je me rendais pas compte, en fait, je crois. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un temps que j'aurais pourrais beaucoup plus rentabiliser parce que la personne que je suis aujourd'hui elle fonctionne mieux que la personne que j'étais à l'époque qui sortait aussi de. Faut savoir que je suis parti, je consommais encore. Donc je buvais encore quand je suis arrivé. Et c'est là-bas que j'ai décidé d'arrêter de boire et de devenir grosso modo quelqu'un de bien. Mais rien que ça, en tant que tel, c'est un espèce de travail de fond. Qui fait que ça rendait le travail de forme difficile. Donc j'étais quand même à mon maximum, hein, mais mon maximum de l'époque était pas dingue. Voilà.
Et pourquoi t'as eu le déclic là-bas?
Mais déjà parce que ils m'ont un peu mis au pied du mur, tu vois, en mode bon, mais ça va pas être possible de continuer comme ça, tu vois, parce que je me suis retrouvé un examen d'impro là en fin d'année où je me suis dit ouais, c'est de l'impro, je peux faire la fête la veille, c'est pas grave. Et donc je suis arrivé en n'ayant pas dormi, en ayant fait de la fête toute la nuit, enfin c'était le dernier examen de Noël avant de rentrer, sauf que j'étais pas dans un état humainement acceptable, je dirais ça comme ça. Et ils m'ont dit non, mais ça c'est pas possible, parce qu'ils ont pas ce rapport un peu bon enfant là qu'on a avec l'alcool ici. C'est pas genre ah,
oh, tu l'as fait alors que t'étais déchiré.
Ouais. Eux, ils ont vraiment un rapport beaucoup plus voilà, tu vois, Dan en parle très bien, tu vois, quand il voit comment nous on a un Dan Gagnon, le rapport qu'on a à l'alcool de ce côté-ci de l'Atlantique est quand même, enfin ça dépend des pays évidemment, mais ici en France, en Belgique, c'est un peu plus laxiste, quoi, on va dire. Et donc d'une part il y avait ça, et donc parce que du coup voilà, ça aide d'être dans un environnement où tu vois qu'en tant que société au complet, ils ont fait des choix différents par rapport à certaines problématiques. Et donc du coup ça a aidé pour le déclic, parce que du coup c'était encore une fois cette idée de ah, en fait tu peux vivre relativement sobrement et quand même être quelqu'un de cool et décontracté et pas forcément chiant, quoi, pas être dans une vie chiante, quoi, parce qu'ici, enfin tu vois, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup, moi, la manière dont je me suis construit une image, enfin non, l'image que je me suis construite par rapport aux artistes qui m'inspiraient, ben c'était une image justement, tu vois, très Bukowski, un peu tu vois, poète maudit, machin, Gainsbourg, déglingué mais génial, enfin tu vois, et que du coup si ça demandait trop d'efforts, c'est que c'était pas vraiment de l'art, en fait, tu vois.
Ouais, d'accord.
Et
c'était plus du génie qui était là tout seul que du travail, quoi.
Ouais. Qui était même là malgré tout, tu
vois.
Ouais,
d'accord. Okay.
Genre le gars qui fait un 3 points de dos sans regarder, en titubant, quoi, tu vois. Et que c'était ça qui était génial. Pas le gars qui a fait des paniers toute la nuit et puis en même temps il arrive et puis il fait la NBA. T'es là, oui, mais alors, tu vois, c'est comme parfois j'ai. Et franchement, je m'en veux souvent, mais j'ai parfois du mal à être impressionné par des numéros de cirque. Je me souviens quand j'étais petit, parce qu'on dit souvent le cirque c'est pour les enfants, tu vois, t'amènes des, les numéros de cirque, les numéros de trapéziste, les numéros qui physiquement étaient dingues, parce que j'étais là, mais oui, mais bon, si tu t'entraînes... J'avais une idée de... Mais moi aussi, tu me donnes 3 mois... Et moi aussi, je te fais une pyramide humaine avec 125 personnes. Enfin, j'avais ce côté de, je vois le mécanisme, ça ne m'impressionne pas. C'est comme je vois le travail. C'est genre, ah, beau travail. comme quelqu'un qui a fait, je sais pas moi, une super sculpture avec des allumettes. Beau travail. Mais ça manquait de magie, alors que les gens qui sont justement, qui n'ont vraiment pas l'air de faire un effort et qui au contraire font tout l'effort inverse, tu vois, parfois pour se détruire et que finalement ils sortent quand même des trucs incroyables, t'es là, oh my god, lui c'est vraiment, c'est du génie pur, c'est incroyable et c'est fascinant, tu vois. Et maintenant, ça va. Maintenant, en tant qu'adulte, je suis un peu plus.
Tu ne penses plus que travailler, c'est tricher.
Je pense plus que travailler, c'est tricher. Et maintenant, je peux comprendre aussi. Maintenant, je me dis, ah, mais peut-être qu'en fait, les adultes, ils emmènent les enfants au cirque aussi parce que ça les impressionne eux. Parce qu'ils savent, au final, à quel point c'est dur. Tu vois, parce que quand t'es enfant, tu crois encore, que potentiellement, il y a des gens qui volent, tu vois. Tu les connais pas. Tu vois, mais je veux dire, tu vois des dessins animés, tu vois des films, tu les connais pas personnellement, mais tu penses que c'est possible, tu vois. Que si tu vas quelque part dans un endroit reculé, tu peux apprendre à voler et à faire apparaître et disparaître des objets, que, tu vois. Que c'est ça la vraie magie que t'as envie de voir. Pas un gars qui sue et qui tremble avec un type de 135 kilos au-dessus de lui qui a ses orteils dans ses yeux, quoi. Mais franchement, je veux pas du tout cracher sur les gens du cirque. C'est très impressionnant. Et maintenant que je suis adulte et que j'ai mal aux genoux, je respecte infiniment ce travail. mais donc voilà. Donc il y avait ce côté là. Et au Canada, j'ai vraiment appris que travail et glamour pouvaient cohabiter. Voilà. Et sobriété. Voilà. Et c'est ça qui est cool. Et l'école m'a vraiment aidé. Donc il y a eu ce déclic. Mais il y a eu aussi l'école qui m'a présenté les bonnes personnes pour pouvoir appréhender ça, quoi. Pour pouvoir commencer ce travail un peu de sanification, de dératisation interne. Et voilà, ouais. Et c'était aussi le fait de me retrouver dans un environnement que j'avais choisi, qui était vraiment là, mon initiative de partir là tout seul. Et puis de quand même me retrouver à cause de mes propres problèmes dans des situations où je pouvais blâmer personne d'autre que moi-même. Ben du coup, ben finalement, tu te retrouves un peu genre, voilà, là c'est un vrai cul-de-sac, quoi. Tu vois, c'est soit tu restes au fond et tu t'appuies un grand coup et tu remontes, soit tu rentres dans un déni perpétuel de, en fait, le problème est extérieur à moi et je vais essayer de trouver des gens qui fonctionnent avec moi, mais qui seront du coup aussi des gens malades. Enfin, voilà, sans vouloir être trop binaire, mais. Mais voilà.
Mais t'avais un peu fantasmé les conditions extérieures dans lesquelles t'allais être et qui allaient te changer du coup.
Ouais.
Et te permettre d'être le génie de l'humour.
Ouais. Moi je me souviens, je regardais les photos sur le site internet là avec les beaux ordinateurs Apple dans la salle de chez là. Waouh, c'est trop beau. Je voyais les paysages, machin, le Mont-Royal. Parce que la vue est belle hein, du 7e étage là de l'immeuble de l'École nationale de l'humour. T'as une vue sur toute la ville, c'est incroyable. Et donc t'as un peu c'est un peu le rêve américain quoi, en français en plus, en VF. Donc j'étais là, yes, si je suis là-bas ça va bien se passer quoi. Tu vois, c'est un peu toujours ce fantasme quand t'es pas bien de me dire non mais si je vais là-bas ça va aller quoi. Et puis en fait tu trimbales toujours ta propre merde avec toi et donc je me suis retrouvé encore plus confronté à mes incapacités et à mes défauts quoi. Enfin, j'ai énormément de gratitude pour le fait de m'être retrouvé dans toutes ces situations. Ça n'a pas du tout été simple, mais aujourd'hui, voilà, j'ai du respect pour le travail et c'est pour ça que, par exemple, là, je sais que je pars à Paris pendant 4 mois, mais je sais que voilà, j'y vais pour travailler. Je sais que je dois me mettre dans un contexte aussi pour essayer de vivre ça de manière plus ou moins zen. Tu vois, sans subir au quotidien toutes les agressions de la ville en général, tu vois, pour pas que ma vie ressemble à ce début de cette vieille pub pétrolane. Mais non, t'as pas connu, c'est dommage ça.
Je sais même pas ce que c'est pétrolane.
Waouh! Damn, ça me fait tellement mal. Waouh, c'est comme quand quelqu'un m'a dit Dorothée, je ne sais pas qui c'est. tu sais qui c'est Dorothée?
C'est vaguement. Pour moi, c'est un peu la pote de Chantal Goya, quoi.
Ouais, c'est ça. Ok, mais au moins tu connais de nom. C'est, ouais. Voilà. Non, pétrolane, c'est de la lotion pour les cheveux. Voilà.
Ah, ok, moi je partais sur du cacao ou un truc comme ça.
Ah ouais. À cause de pétrole. Ouais, non.
Bah, je sais pas.
C'est un truc avec des huiles essentielles qui est censé être bon pour la racine du cheveu. Et en tout cas, il y avait une vieille pub qui passait dans les années 80, début 90, tout à l'heure, qui disait. Et tu voyais un mec qui descendait de sa moto, qui enlevait son casque, comme ça, avec sa chevelure. Et il était dans Paris, un peu en gris, comme ça. Et ça disait pollution, stress. et demain, chute de cheveux. La solution, c'est Petrolane. Et en gros, cette image de pollution, stress et demain, chute de cheveux, j'ai un peu l'impression qu'encore aujourd'hui, c'est un peu ça à Paris, quoi, l'ambiance. Et du coup, je me dis, moi, je vais devoir aller là-bas, trouver des moyens de faire du yoga, trouver des moyens d'aller en forêt, d'être vraiment... de me créer des bulles de zénitude, aussi cliché bobo que ça puisse paraître,
mais la ville elle-même,
mais quoi. Voilà quoi, tu vois, ça me coûte beaucoup moins d'assumer ces clichés bobo que de faire comme en mode tout est cool, non c'est normal et tout, et de voilà, de vivre comme si c'était normal de croiser des gens qui dorment dans les escaliers du métro. L'autre jour j'ai vu un gars qui dormait à la verticale, même pas sur une marche. Tu vois, il dormait au milieu, dressé comme un i au milieu des marches, et tout le monde passait autour, et voilà, genre comme si c'était un papier d'un vieux cheeseburger qui traînait. Mais et ça, c'est aux arrêts de bus. Et après, en même temps, je ne fais rien au quotidien non plus pour qu'on sorte tous de cette situation, mais je sais que c'est quand même quelque chose auquel comme beaucoup de gens, je ne suis pas neutre, quoi. Et donc enfin, je ne suis pas indifférent. Donc, il y a ça, et puis y a cette ambiance un peu pressante et pressée, cette pression de la performance. Donc, bref, ça, je sais que voilà, y a beaucoup de stress. Et je ne sais pas comment toi Paris, tu parce que tu y es quand même souvent, et puis t'es quand même dans des situations beaucoup plus stressantes au final.
Non, parce que j'y vais le moins possible, et souvent je fais les allers-retours. Mais quand je dois y rester plusieurs jours, j'ai un peu ce truc de je suis ancrée nulle part, tu vois. Je ne suis jamais chez moi, je suis toujours à l'hôtel, j'arrive pas à juste me poser et faire un truc à la cool parce que je suis toujours en mode je suis pas chez moi, je rentre bientôt. Et pareil, il y a toujours un truc hyper oppressant, un truc qui grouille, enfin un truc qui tourne en fond et qui t'empêche d'être concentré, je trouve. Mais peut-être juste c'est une question de manque d'habitude.
Je pense
que les Parisiens, enfin j'espère que les Parisiens, ils n'ont pas ça, quoi.
Non, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de comme quand tu discutes sous la hotte, quoi.
Ouais,
tu vois. Et à un moment donné, t'oublies. Parce que tu vois, quand tu fumes une clope à l'intérieur en hiver et que t'as la hotte et t'es là, ouais. Mais quand tu l'éteins, t'es là. Et je sais que moi, je dois me créer des moments de pendant que je suis sur place, parce que sinon, ça ne va pas aller, quoi. Et voilà, moi, j'ai la même psy qui me dit de faire le journal des ratés. Elle me dit de me ménager des moments de une heure dans la journée où je ne fais rien. Genre rien. Genre aucun stimuli. C'est pas simple.
Tu vas faire quoi?
Mais je sais pas, mais j'ai déjà essayé de le faire. Là, je reste assis dans ce canapé, ce petit canapé. Enfin, c'est pas un canapé, mais c'est le fauteuil classique Ikea avec les accoudoirs. J'essaye de décrire pour l'audio guide, comme dirait SML. Mais forcément, tu pars dans tes pensées, mais il y a quand même quelque chose d'apaisant. Voilà, au début, c'est hyper angoissant. T'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Nanana, je vais partir, genre, tu te sens enfermé, quoi, dans ta propre tête. Mais avec le temps, il y a quelque chose qui se calme et ça fait vraiment du bien, quoi. Alors, l'idéal, évidemment, c'est de faire une vraie sieste, d'être suffisamment crevé pour vraiment dormir, parce que du coup, en plus, tu le fais sans effort.
Ah, mais ça, c'est pas pareil, dormir, mais c'est facile.
Mais ça a un peu le même effet, parce que c'est l'idée de laisser ton corps au repos et toi, ne pas avoir d'input, en fait, tu vois.
Ah, c'est marrant, moi, la sieste, je vois plus ça comme une fuite.
Ah ouais?
Je vois pas ça comme du repos, je vois ça comme une fuite. C'est un peu, pour moi, si je vais faire une sieste, c'est j'ai abandonné, tu vois. C'est pas que je prends du temps pour moi, c'est que j'ai abandonné et que c'est trop. Faut que je coupe.
Ça veut dire que tu ne prévois jamais de faire des siestes. Tu fais toujours des siestes quand
des
gens...
Je subis des siestes.
Ouais.
Mais souvent, je prévois que je vais subir.
Ah ouais.
Donc je sais que l'après-midi, peu de chances que je réponde au téléphone, quoi.
Mais est-ce que du coup, ça pourrait simplement avoir la même fonction, c'est-à-dire de te recharger, mais que toi, tu l'assumes pas assez?
Non, parce que je suis pas du tout rechargée après.
Ah ouais.
Après, je me lève, je suis comme, oh putain, c'est toujours la même journée.
Mais t'en fais beaucoup? Enfin,
un peu moins maintenant, mais je peux dormir, je peux faire des petits comas, quoi.
Mais tu dis que c'est une fuite parce que si t'étais pas fatigué, tu continuerais, quoi.
Bah, je serais stressée, tu vois. Et j'aurais mis le truc dans la tête et je me dis, ok, c'est bon, on coupe tout, je vais dormir, là, c'est fini.
Mais c'est le truc sain à faire, hein. Enfin, c'est ce que me disait, en tout cas.
Je sais pas.
Si, bah, parce que, en gros, ton corps a besoin de. Enfin.
Ouais, mais s'il a déjà dormi 11 heures...
Je te parle de choses que je sais depuis deux jours.
Mmh, oui, c'est le principe de ce podcast. Avoir l'air très sûr de trucs dont on n'est vraiment pas sûr depuis longtemps.
J'essaye pour l'instant. C'est une photographie à l'instant T, quoi. Voilà. Est-ce que je peux te resservir un peu de Coca-Zéro, Fanny? Je sais pas si on peut citer des choses, mais en même temps, voilà. Mais je suis en train d'expérimenter. Et donc, c'est vrai que ouais, là, c'est une photographie à l'instant T de là où j'en suis. Et de ce que je sais so far, sachant qu'on ne sait quand même pas grand-chose.
Et pourquoi tu vas à Paris? Pourquoi tu as décidé d'aller dans une ville pour laquelle tu n'as pas spécialement d'affect?
Alors, je n'ai pas d'affect. Je trouve que c'est une ville magnifique, très inspirante artistiquement, très, 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 très belle, mais c'est vrai qu'il sent fort le pipi, quoi. c'est vrai. C'est comme quelqu'un de très, très beau qui pue de la gueule, quoi. Mmh. En fait, c'est un peu ça, cette ville. En photo, c'est génial, mais quand tu as une conversation, à un moment donné, tu dois trouver des moyens de détourner la tête. Mais du coup, elle m'inspire quand même, et en fait, j'y vais simplement pour me créer les conditions qui vont me permettre de ne pas avoir d'excuses et d'être obligé de travailler fort, quoi. Tu vois, c'est parce que c'est ça que j'ai envie au final. Moi, je suis là en train de naviguer dans toutes mes to-do lists avec ce que je dois nettoyer, manger, tout plein de trucs, enfin, payer, voilà, mes factures. Tout ça me prend un temps fou, et au final, le travail en lui-même, je ne le fais que à la dernière minute et que de manière, à mon sens, bâclée, quoi. Et donc, j'ai envie de me mettre dans des conditions où je n'ai que ça à faire, quasi, et où je vais pouvoir aussi voir ce qui sort de ça, tu vois. Parce que pour l'instant, j'ai encore vraiment l'impression, même si j'ai des bons retours parfois, mais ça marche pas partout, et je sais à quel point aussi non plus, c'est pas, mon truc est pas du tout Québec-proof. Et j'ai l'impression de servir un peu à un truc en attendant d'avoir un truc vraiment bien dont je suis fier. Tu vois, que j'ai un peu, de toujours un peu envoyer les soufflés, là. Comme dans le film, là, il y a un film avec le dernier film de Jean-Pierre Bacri, enfin, avec Jean-Pierre Bacri, Le Sens de la Fête, où il y a un problème c'est l'histoire d'un gars qui organise qui est chef d'un service traiteur, et il organise un mariage ou une fête, je sais plus trop. Et à un moment donné, il y a un problème en cuisine, et donc, ils ont pas les trucs qu'ils avaient prévu à donner aux invités. Et donc, il y a ce truc, apparemment, qui était un truc de traiteur qui dit, on envoie les soufflés ou les feuilletés, je sais plus. Et donc, ils envoient des feuilletés aux anchois qui surgelés, quoi. Donc, ils ont toujours, apparemment, c'est un vieux truc de traiteur d'avoir toujours des feuilletés aux anchois surgelés, que tu réchauffes très rapidement. Et en fait, tu donnes ça aux gens. Ça donne super soif parce que c'est hyper salé. Les gens boivent de l'eau pétillante ou boivent de l'eau. Ça les fait gonfler comme un ballon, et en fait, ça leur cale la faim pendant 2 heures, ce qui permet de toi trouver un plan B pour ton sauté de veau qui a foiré, quoi. Donc voilà. Et donc moi, j'ai l'impression que depuis le début de ma carrière, j'ai genre envoyé les feuilletés, mais que j'ai jamais vraiment le temps de vraiment cuisiner.
Tout le monde déteste les anchois.
Et qu'en plus, les gens, ils sont là, mais je suis allergique aux anchois, je peux pas le dire. Et donc, du coup, je vais pour cuisiner, quoi, à Paris. C'est pour ça, en fait. Okay. Voilà, opération ratatouille. Ouais, c'est ça, c'est créer un contexte. Mais c'est pour ça aussi, je vais pour un temps limité, pour aussi avoir une putain de deadline, quoi. Donc, 4 mois. 4 mois, 2 représentations par mois à la petite loge. Voilà, tous les 15 jours, avec chaque fois 15 nouvelles minutes que je vais rôder chaque fois en comedy club. Donc, c'est aussi pour jouer, tu vois, parce qu'en fait, en Belgique, on a des opportunités pour jouer, mais qui sont pas...
Donc, tu peux pas jouer 3 fois par soir une semaine, quoi.
Ouais, ouais. Et donc moi, c'est ce que j'ai envie de faire, quoi, avoir vraiment de l'espace pour taffer, quoi, et être concentré à 100% là-dessus, et puis voir ce qui en sort aussi, tu vois. Et peut-être que ce qui en sortira, c'est mais ça me plaît pas tant que ça, tu vois, ou je sais pas encore, tu vois. Mais je saurais pas tant que j'aurais pas vraiment mis les mains au fourneau, quoi.
Mais tu sais ce que t'as envie d'améliorer, ce que t'as envie d'écrire, tu sais le truc que tu cherches?
Mais déjà ça. Déjà ça. Oui et non. Oui et non. En fait, le truc, c'est que j'ai vraiment commencé en parlant de moi et en parlant de mon histoire originale et tout, nanani nanana. Et qui sont déjà des sujets en soi qui peuvent faire 1 heure de spectacle chacun, tu vois. De grandir dans un environnement blanc en étant noir, l'adoption, les parents, Et en gros, ben, j'ai déjà envie de creuser un peu ces sujets-là plus loin, parce que j'ai l'impression d'aborder les choses très en surface, tu vois. Par exemple, juste un exemple, mes parents, il y avait une partie de moi qui trouvait, entre guillemets, très progressiste, de ne pas en faire trop un sujet du spectacle, tu vois.
Le fait que ce sont deux femmes.
Le fait que ce sont deux femmes, pardon, excusez-moi. Tu vois.
Oui,
le manque d'humilité, quoi, de croire que les gens savent. Voilà, deux femmes dans les années 80. Mais du coup, de cette expérience-là, et tout le monde me disait, je me souviens même, je me souviens d'avoir parlé un peu avec Kian qui me disait, mais parle de ça, ça c'est original, ça c'est le truc. Et voilà, j'étais pas hyper à l'aise aussi avec le côté, ah, ça c'est original, il faut parler de ça. Genre, vas-y, genre, un peu avec le côté un peu faussement freak, alors du coup, tu vois, du truc, tu vois. Alors que c'est pas ça. Mais d'un autre côté, il y a une partie de moi que ça arrangeait bien de me dire non, mais je vais pas en parler du tout. Comme ça, voilà, déjà rien que ça, il y a un côté un peu, voilà, ça normalise. Et ça, je trouve que c'est vrai. Mais je sais qu'il y a une partie flemmard de moi que ça arrange bien, ça aussi. Tu vois, du coup, de pas creuser. Et de pas plus en parler, de pas faire le travail vraiment de
mais pourquoi
d'écrire de quoi.
Qu'est-ce que t'aimerais creuser ou qu'est-ce que t'aurais peur de creuser justement?
Mais parfois le fait que ça s'est pas forcément toujours super bien passé et c'est pas du tout lié à la configuration, mais juste le rapport parent-enfant et plus. Là, je l'aborde un petit peu dans le spectacle, mais parce qu'elles étaient plus âgées, et donc il y avait un gap générationnel assez fort, tu vois, parce qu'elles étaient nées dans les années 20 et 30. Donc c'est une autre époque, hein.
Les années 20 et 30, ouais. C'est 2000.
Ouais. Ouais, c'est ça. C'est bien avant Pétrolane. Et du coup, ça n'a pas toujours été simple, quoi. Et puis en plus, elles étaient de la génération, on reste ensemble quoi qu'il arrive, parce qu'on se sépare pas, tu vois. Même si ça va pas, même si ça va plus. Et le problème aussi, c'est que malheureusement, elles sont plus là. Donc c'est toujours un peu délicat de savoir à quel point est-ce que c'est approprié de parler à la place de gens qui ne sont plus là. Mais en même temps, si j'en parle pas, elles n'existent plus. Ça, c'est quelque chose qui me terrifie vraiment. Si demain je meurs, c'est comme si ces personnes n'avaient jamais existé. Parce qu'elles ne sont plus portées par aucune mémoire, tu vois. Parce que comme elles sont nées, c'était l'époque avant les réseaux sociaux, et elles n'ont rien écrit, elles n'ont rien laissé de, voilà. Et c'est terrifiant de voir à quel point l'existence entière de personnes peuvent disparaître. Je me souviens, désolé, digression, mais elles m'ont laissé la maison dans laquelle elles ont habité pendant 50 ans quasi, dans laquelle maintenant il y a des locataires. Et le locataire d'avant, j'avais dit, je veux garder un espace dans la cave pour stocker des choses. Voilà. Et j'avais stocké notamment toute une caisse de cassettes vidéo. Que ma marraine, parce que c'était ça l'arrangement, c'est que c'était maman et marraine, la marraine c'était la plus âgée, qui était née en 1929, Hélène Évrard, parce qu'on peut la nommer. Elle avait enregistré, pendant les 20 dernières années de sa vie, elle avait enregistré des émissions de variété, Michel Drucker, Jean Foucault, enfin toutes ces émissions-là, en disant, voilà, comme ça, quand je serai à la maison de retraite, j'aurai de quoi regarder, j'aurai de quoi m'occuper. C'est de ma génération, ça me parle, voilà, c'est super. Et donc, elle avait une collection d'une centaine de cassettes, bien inventoriées et tout, avec marqué tout ce qu'il y avait dessus. Cassette 1, machin, émission avec Céline Dion et avec Patricia Cass, enfin bref. Et donc, cette boîte était dans la cave, et à un moment donné, le locataire me dit « Ah, j'aimerais bien mettre un peu plus de place pour mes affaires. » Moi, je te l'ai dit, c'est vrai que je traîne des trucs que personne ne va utiliser. Et donc, je contacte des maisons de repos, des maisons de retraite, en disant, mais voilà, vos pensionnés, ils adoreraient ça, parce que c'est vraiment, ça va leur parler, c'est leur génération et tout. Et tout le monde me répond, je suis désolé, c'est super, une super initiative, merci beaucoup. Mais on n'a pas de VHS. On n'a pas de lecteur vidéo, quoi. Donc, voilà, et bon, mettre en DVD serait un peu compliqué. Et à un moment donné, du coup, je me retrouve à me dire, je vais jeter ces cassettes, et je ne sais pas pourquoi. Parfois, il y a des choses plus que d'autres qui vont te toucher, mais le locataire me dit, écoute, il y a un conteneur devant la maison pour l'instant parce que moi, je suis en train d'évacuer des trucs. C'est le moment de jeter des trucs. Et je me retrouve à jeter cette boîte avec tout ce que cette personne avait prévu pour sa fin de vie, parce qu'en fait elle est morte de manière très abrupte. Voilà, elle a eu un cancer fulgurant, mais parce qu'elle voulait jamais aller chez le médecin, parce que elle disait, ah, les médecins, ils vont toujours te trouver quelque chose, tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors, nanani, nanana. Et donc elle a négligé sa santé très fort. Et c'est vraiment jusqu'à ce qu'elle puisse plus se lever de son lit, physiquement, qu'on lui dit, mais là, t'iras pas chez le médecin. Et puis elle a été, et puis on lui dit, ah, mais vous avez un cancer généralisé, il vous reste plus beaucoup de temps. Et donc elle est morte, je pense, deux ou trois semaines après. Donc elle a jamais regardé une seule de ses cassettes. Et au moment où moi je vide tout ça dans le conteneur, j'étais là, mais j'étais frappé par l'insignifiance de ce que peut représenter une vie, quoi. Parce que elle avait 82 ans quand elle est décédée, elle avait plus beaucoup de gens en vie qui l'avaient connue, et je sais pas pourquoi ça m'avait vraiment frappé, parce que je revoyais tous les moments où elle avait appuyer sur enregistrer, où elle parlait de ça en disant, ah, mais quand je serai à la maison de retraite, je regarderai ça. La projection qu'elle s'était faite, et puis il s'était rien passé de tout ça. Et puis tout ça n'avait plus de sens pour personne. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que si moi j'en parle pas, ben, y a encore moins de mémoire qui va rester de ça, quoi. Alors qu'en plus, c'est une femme qui s'est vraiment, dédié au sens sacrificiel, quoi, à sa famille. Et voilà, et donc je sais pas si c'est un sujet, en plus je sais même pas si c'est des sujets que j'ai forcément envie de creuser sur le ton de l'humour ou dans un spectacle, ou si j'ai... mais je sais que quand je dis ma tête est une brocante là, c'est un peu ça aussi, c'est que c'est rempli de souvenirs et de mémoires qui sont puissantes, qui ont beaucoup de signifiance, mais pour des gens aujourd'hui qui ont de moins en moins les rêves, quoi. Et donc je me retrouve un peu à, je sais pas, avoir plein d'argent dans une monnaie qui n'existe bientôt plus, quoi, j'ai l'impression. Et donc voilà, mais que j'ai du coup pas envie de jeter.
T'as essayé une autre forme que l'humour ?
Non, mais alors j'ai beaucoup envie d'écrire. Je sais que j'ai beaucoup envie d'écrire. Il y a une idée de série, il y a une idée de... Voilà, l'année prochaine, je sais que je vais faire un documentaire sur ma famille biologique aussi, ma famille rwandaise que j'ai retrouvée quand j'avais 20 ans. Parce que quand j'avais 20 ans, j'ai fait des recherches pour retrouver ma famille d'origine et je les ai retrouvées. Et je suis parti au Rwanda pendant 3 mois, où j'ai encore une grand-mère qui a 95 ans, je crois. Et si elle m'attend, Inch'Allah, l'année prochaine, je serai là et je vais essayer de collecter ses souvenirs et sa mémoire. Mais donc oui, je sais que tout ce qui est d'une manière ou d'une autre, expo, documentaire et tout, m'attire un peu. Voilà. Parce qu'il y a des choses où parfois je n'en fais rien, mais je trouve que ça ne vaut pas la peine d'aller dans une poubelle, quoi. Je trouve que, voilà. Mais du coup, parfois je suis là et je sais pas quoi en faire, quoi. J'ai plein de bordel là. Et qui est un peu dans un entre-deux, quoi. Et je sais que c'est aussi des choses sur lesquelles je vais écrire quand je vais, même pour trouver des blagues, c'est des choses que je dois sortir de moi pour parfois trouver une blague derrière. Donc je sais que Paris va aussi m'amener ça, quoi. Enfin, le travail de manière générale, c'est pas Paris, c'est pas un endroit, mais genre le fait de me mettre activement au travail, de me dire ok, maintenant je me mets une discipline de X heures par jour, ça va me faire sortir ces choses-là. Donc voilà, on verra. Hélène. Un sacré personnage pourtant, sacré personnage. Oui, mais donc voilà, oui, voilà.
Et la seconde, c'est quoi son nom ?
C'est José. José avec deux E, parce que comme je dis, c'est pas parce que c'était la plus masculine des deux qu'elle peut pas avoir son prénom bien orthographié. José Van Giel, celle qui m'a donné mon nom de famille. Qui était hôtesse de l'air, mais qui était pourtant la moins coquette, on va dire, des deux. C'est ça qui est marrant, quoi. Hélène, la plus âgée, c'est celle qui m'a vraiment... montrer un peu le chemin de la culture paradoxalement. C'est marrant parce que c'était voilà, elle avait arrêté l'école à 14 ans, elle avait travaillé dans les grandes surfaces, elle avait vraiment fait son petit bonhomme de chemin là, et elle adorait le théâtre, et c'est elle qui m'a amené à voir des trucs depuis petit, quoi. Et donc je pense que l'attrait en tout cas pour le théâtre, c'est venu via elle. Et José, c'est celle qui voulait que je fasse des études et tout ça. Mais donc, non, mais du coup, c'est marrant, c'est parce qu'elle, elle était un peu la plus... Ouais, c'est ça. La plus coquette, quoi. Celle qui, quand on était dans les files d'attente au théâtre, regardait les jeunes de l'époque, tu vois, des années 80 et 90, et disait... Je comprends pas qu'on puisse aller au théâtre en jeans. Je ne comprends pas ces gens. Elle, c'était vrai, le sorti au théâtre, c'est un vrai truc, quoi, tu vois. C'est manteau de fourrure, boucle d'oreille, on y va, quoi. Et José, par contre, c'était la plus jeune, et elle, c'était... Enfin, elle avait 6 ans de moins. Et elle avait le métier, voilà, hôtesse de l'air et tout, un peu glamour et tout, mais par contre, c'était la meuf... pas de talons, pas de maquillage, enfin, en dehors du boulot. Et voilà, un casse-tête pour la fête des mères. Je peux te dire, un casse-tête pour la fête des mères. Tu ne voulais pas venir avec un parfum, quoi. Tu vois. On disait toujours, ramène-moi un bon bulletin. C'est ça que je veux. Donc voilà, ouais. Donc je ne sais pas encore. Ouais, j'ai envie d'aborder vraiment d'autres formes. Ça, c'est sûr et certain. J'ai envie d'aborder d'autres formes. J'ai envie de creuser d'autres choses. Et on verra tout ce que ça amène, quoi. Le problème aussi, c'est que voilà, j'ai un syndrome de l'imposteur très fort. Mais pour l'instant, je ne me vois pas faire, je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Donc, voilà. Parfois, je me dis, non, mais tout ça est très, très vain. Mais je suis là. Toi, tu te dis jamais, si tu devais pas du tout faire quelque chose d'artistique, tu vois, si au final, tu te dis, non, mais tout ça est quand même de la grosse branlette.
Ah oui, mais ce métier est de la branlette constamment.
Ouais.
Ça n'apporte rien de tangible.
Ouais.
C'est juste des fois, apporter du confort à des gens. C'est un luxe que des gens se permettent d'aller voir un spectacle, de voir des blagues, machin, mais ça n'a rien de tangible. Oui, non, mais si je commence à penser à ça, c'est horrible. Donc
Mais toi qui es hyper organisé, enfin hyper organisé, on s'entend, mais je veux dire qui...
C'est vrai.
Faut te rendre à l'évidence. Non, mais tu sais que franchement, ça m'a tellement rassuré de t'entendre dire parfois que tu faisais tes chroniques de temps en temps, un peu à la dernière minute, que t'étais pas... Parce que pour moi, t'étais tellement... Enfin, t'es encore toujours la Hermione du game, et tu vois, et celle vraiment qui... Genre limite un cyborg. Moi, je t'appelais C-19. Peut-être t'as pas la ref, parce que c'est genre Dragon Ball. Et il y avait deux cyborgs, enfin trois cyborgs, c'est C-16, C-17 et C-18, et moi, je t'appelais C-19. Et En mode... Tellement tu m'impressionnais par ta capacité presque machinale à produire, tu vois, des choses. Et je me suis dit, mais cette personne, comment elle gère ses émotions, tu vois, comment tu...
Je pense que je fais plein de choses pour ne pas avoir à gérer mes émotions, justement.
Oui, mais ça veut dire que même les mini-émotions que tu peux ressentir, elles ne sont jamais handicapantes. Tu vois ?
Quel genre d'émotion ?
Mais justement, tout ce qui concerne le doute fondamental d'avoir le droit de faire ce que tu vois.
Je pense qu'il y a un peu un truc de si je commence à réfléchir, ça va pas aller, donc je le fais pas, tu vois. J'avance me dis de toute façon, il y a un peu un truc aveuglant de pouvoir se dire ok, c'est mon métier, de toute façon, faut que je le fasse parce que sinon, je fais quoi dans la vie, tu vois. Donc je le fais, point, sans me poser de questions de. De pourquoi, comment, est-ce que ça a du sens, et nanana. Et des fois, ça revient un petit peu, et des fois, je me demande pourquoi il m'arrive plein de choses chouettes alors que je fais des blagues. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait, d'avoir une vie aussi cool en faisant juste des blagues que j'écris en culotte, un peu à l'arrache parfois. Mais non, je pense que c'est le genre de truc que j'y pense pas, je le fais et. Et ouais, c'est tout.
Mais donc, tu t'es jamais dit c'est quoi le plan B ? Même pendant le confinement, tu vois, si jamais tout s'arrête et tout, t'as pas du tout de plan B ?
Non, bah, pendant le confinement, j'avais la chance d'avoir des corpos, des machins, donc ça restait dans l'humour, dans. Je produisais des petites vidéos pour des entreprises et tout, mais des trucs rigolos. Et juste j'ai remplacé les blagues normales par ça et je me disais ok, c'est mon travail, maintenant je fais ça, je suis focus. Et mais avoir un vrai plan B, je n'ai aucune idée de ce que je ferais. Je pense que je serais très malheureuse si j'avais un truc très codifié,
ouais,
parce que ça me rendrait zinzin, en fait. Parce que en fait là, j'ai l'impression que les quelques fois où j'ai fait un truc plus de bureau et tout, je ressentais vraiment le manque de sens.
Ouais, ça, je comprends.
Du fait que j'étais pas à ma place. En fait, je me disais vraiment ce truc de c'est ça toute la vie.
Ouais.
Genre si c'est ça, oh, non hein.
Ouais, ouais.
Non, ça m'intéresse pas du tout.
Ouais.
Et maintenant, je sais pas si c'est juste parce que j'y pense plus ou parce que justement, je m'en rends pas compte, mais j'ai trouvé du sens.
Ouais.
Ou en tout cas, une place où je me sens bien et où je peux un peu bouger parce que j'ai assez de place dans les habits, tu vois.
Ouais.
Je sais pas trop. Et toi, c'était, tu pensais que ouais. t'allais faire quoi quand t'étais petit?
Imitateur de Michael Jackson. ce qui est quand même pas hyper
c'est
glorieux.
C'est
tu vois,
niche,
déjà,
hein.
c'est de plus en plus. C'est une toute petite niche. Du coup, ouais, c'est ça. Je me projetais, voilà, doublure, quoi.
Ah, vraiment au premier degré?
Doublure danse. Non, mais dans mes rêves les plus fous, évidemment.
Ah, ouais.
Et puis, non, bah, il y a.
Très vite, ça, t'es devenu Macron.
C'est pas grave. Franchement, quelque part, il y en a un des deux qui vit quand même mieux, quoi. Mais du coup, très vite, je me suis dit, l'écriture, ça oui. Mais non, ah oui, pilote d'avion aussi, non, rien à voir, pilote d'avion. Mais j'ai été très vite rattrapé par mon manque de talent en mathématiques. Mmh. Tu vois, j'avais ma mère qui était hôtesse de l'air, tu vois, on a quand même toujours un peu ce truc d'identifier. Donc moi, je me disais, non, moi, je vais être pilote d'avion de chasse. Voilà, pilote d'essai, je voulais être Bugdani, c'est une BD. Une BD, j'allais dire flamande, mais je suis même pas sûr, mais c'est genre vraiment un truc sur des pilotes, quoi, des pilotes d'avions de chasse. Mais du coup, ouais, et donc, quand ça n'a pas été possible, ben, du coup, ouais, il y avait un côté un peu par dépit, ouais, des trucs artistiques, quoi. Moi, je me souviens, j'étais hyper jaloux d'une meuf en réto qui avait genre 20 sur 20 en français, mais elle a aussi 20 sur 20 en latin et aussi 20 sur 20 en maths. Et j'étais là, mais ces gens-là.
Belle gosse. Vous
ne... Alors, je sais pas si Fanny se projetait aussi identifiée, mais en tout cas, ouais, tu t'approuves, mais je me dis, ces gens-là, ils ont vraiment le choix, tu vois.
Toi, t'as fait beaucoup de réto, non? Alors, le réto, c'est la terminale.
Alors,
pour
tu
les
vois, il y a des gens qui collectionnent les Pokémon. Moi, j'ai collectionné les. J'en ai fait trois. J'en ai fait trois pour des raisons différentes, mais trois dans trois écoles différentes. Donc, quelque part, voilà, c'est un long voyage. Ma réto est une trilogie. Ok. Voilà. Et ça s'est bien terminé. Mais ouais. C'est marrant parce que j'ai pas foiré d'année avant, mais j'ai fait trois réto.
Mais qu'est-ce qui voilà. s'est passé?
Mais parce que. J'ai... des choses pas hyper racontables. La première, c'est parce que voilà, j'avais un examen de passage et puis au lieu d'aller, évidemment, comme je faisais toujours tout à la dernière minute, j'avais pas étudié jusqu'au jour de l'examen de passage, j'avais pas étudié et la veille, au lieu d'aller dormir chez mon copain Martin, où j'aurais eu une chambre à part et où j'aurais pu bien réviser mon examen de chimie, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Non, j'ai choisi d'aller chez ma petite copine de l'époque, je ne nommerai pas, mais chez qui je n'ai pas dormi et je n'ai pas du tout fait de la chimie. Enfin, en tout cas, pas théorique. Et du coup, je suis arrivé le matin et j'ai donné une page blanche, me condamnant moi-même. Alors que c'était le seul examen. Enfin, genre, le prof, il m'a appelé, il m'a dit, mais pourquoi ? Enfin, ça n'avait pas de sens, quoi. Parce que j'ai vraiment ce truc tout ou rien de me dire, ah, parfois, je m'en veux tellement que je fais volontairement super fort de la merde pour me punir.
Ah, j'avais vu, il y a un docu. Sur l'entraîneur de Serena Williams sur Netflix et qui parlait du fait que c'était une...
C'est le gars que joue Will Smith dans le film
enfin, non, non, ça c'est leur père.
Ah,
et
oui,
il y a,
non, ouais.
Je pense que c'est Murat Oglu, son nom.
D'accord.
Il expliquait que souvent il avait le problème avec certains athlètes que quand ils commençaient à perdre le match, ils jouaient de plus en plus mal.
Ouais, ça a un nom, ça. Ouais.
Je ne sais plus. Mais c'est genre comme ça, ils créent eux-mêmes la défaite plutôt que de la subir.
Et il y a
un truc de comme ça, je peux continuer à croire que j'ai du talent. C'est juste que là, j'ai fini par moi-même, de mon plein gré, mal jouer.
Exactement.
Et du coup, il a menti sur ses stats et tout, pour qu'elle prenne confiance. Enfin, il est vraiment hyper intéressant.
Ah, waouh.
Et voilà, mais ouais, c'est un truc de ce quand tu sens que t'as pas la maîtrise de commencer à saboter.
Oui.
Pour garder le contrôle, quoi.
Ben oui, et que du coup, t'as l'impression que ça reste un choix, que ça reste ton initiative. Genre, j'ai remis une feuille blanche, et genre, tu vois, grand prince, je sors par la grande porte, et le prof qui était là, mais tu vois, si t'avais mis au moins quelque chose, j'aurais pu trouver. Mais si ça se trouve, si j'avais fait le max de ce que j'étais capable de faire ce matin-là, il aurait quand même pas pu me mettre les points, et j'aurais quand même peut-être foiré, et j'aurais juste râlé d'avoir été dormir chez la mauvaise personne. Et du coup... ben quelque part il y a une partie de moi qui voulait pas accepter la réalité. J'ai du mal avec l'acceptation de la réalité, quoi, d'où la dystopie. C'est un gros problème que j'ai, quoi, sur lequel je travaille fort, sur ces, voilà, d'accepter le moment tel qu'il est, sans vouloir qu'il soit mieux, sans vouloir qu'il soit moins bien, juste de l'accepter, quoi, d'être là, et c'est bien. Il y a un truc qui m'a conforté il y a pas longtemps là-dedans, c'est de savoir que la vie humaine est estimée à 3 millions d'euros.
Pardon ?
En Europe occidentale. Ouais.
T'as vu ça dans un truc d'avion où ils doivent rembourser la famille des victimes ou
Mais c'est lié à ce genre de choses-là, effectivement. Donc, c'est des calculs de statisticiens, d'assureurs, de je sais pas tout quoi. Mais en gros, même par rapport genre le Covid, pandémie et tout, hein, genre à quel chiffre on estime la vie humaine pour savoir à quel point est-ce qu'on intervient pour sauver des gens, parfois, tu vois. Et donc, on a dû faire un calcul dont je ne connais pas la genèse, mais enfin, dont je ne connais pas le processus, mais qui a abouti à dire que c'est plus ou moins 3 millions d'euros.
Ça me paraît énorme.
Oui, mais c'est très rassurant, quelque part. Ça veut dire que quoi que tu fasses, tu vaux 3 millions d'euros, tu vois.
Ouais, mais les NFT, c'est cher. Pas pour autant que les NFT, c'est chouette.
Non, je dis pas
en fait,
ça.
On
alors,
est des NFT
non.
pour quelqu'un, en fait. Peut-être qu'il y a des pour forces quelqu'un. Supérieures, oui. On est leur NFT.
Alors oui. Cependant, que tu gagnes un Oscar ou que tu sois en train de morfler ta race en lendemain de veille, tu vaux toujours 3 millions d'euros. Tu peux toujours te regarder dans le miroir et te dire « Hey, 3 million walking ». Tu vois, il y a un côté... Moi, ça, je sais pas pourquoi. Quand vraiment ça va pas, j'ai plein de petites astuces, de petits tiroirs à ouvrir pour me dire non, mais en fait ça va. Tu as le droit d'être en vie. Ben, y a ça, par exemple. Donc quelque part, les NFT m'ont sauvé la vie. Pour quelqu'un qui gère très mal ses finances, c'est quand même très paradoxal. Mais ouais, mais ce truc, ben voilà, ce truc, cet accès fondamental. Parce qu'au final, voilà, c'est ça. C'est que moi, il y a deux choses auxquelles j'aimerais accéder. C'est la validation intérieure, d'une part, parce que ça, tu vois, c'est pour ça qu'on parlait des réseaux sociaux là tantôt. Voilà, c'est que de la validation extérieure. Et même ce métier, c'est pour ça que je doute en permanence, parce que chaque fois je me dis, encore aujourd'hui, l'autre jour je parlais avec Sarah Grosjean, qui est une copine, et où je disais, mais franchement, je ne comprends pas pourquoi je me suis engagé dans cette voie. Parce que, en fait, quand j'ai commencé le stand-up, moi, j'étais au fond du trou, tu vois. Genre, je buvais comme un pochetron, je m'occupais de ma mère, mais très mal, voilà, qui était en soins palliatifs à domicile. Et enfin, c'était une situation assez chaotique. Hélène, la fameuse Hélène du théâtre, était déjà décédée. Donc, j'étais tout seul avec José, qui était en fin de vie, qui avait un cancer des os au stade terminal. Et bref, et moi, j'avais 28 ans, quoi. Et donc, du coup, justement, j'ai été un peu... émerveillé par cet accès à la vérité, par voilà, j'ai découvert Louis C.K. qui parle de sujets qui sont quand même pas ceux que je pouvais attendre dans un spectacle d'humour, parce que pour moi l'humour c'était Jamel, Gad Elmaleh, machin et tout, et donc de me dire ah ben on peut parler de choses compliquées psychologiquement et de les assumer, etc. Révélation, voilà, Dan Gagnon qui me dit mais vas-y, parle de ta vie, c'est extraordinaire, vas-y. Et donc je fais ça marchouille un peu, mais aujourd'hui, fast forward quelques années plus tard, où maintenant je suis sobre, je suis relativement content de la personne que je suis en train de devenir, je suis plus aussi mécontent de moi-même au quotidien. Je suis là, mais est-ce que j'ai encore tellement besoin d'aller me confronter tous les jours à l'opinion des autres, à la validation extérieure, tu vois, alors que maintenant j'ai décidé de faire ça professionnellement, quoi. Donc c'est vraiment un truc où tu te dis, mais ça n'a pas de sens, quoi. Pourquoi est-ce que je choisis de faire un truc qui est potentiellement aussi dur à vivre quand ça se passe mal, tu vois, et qui demande tellement d'équilibre intérieur au final, parce qu'au final, quand ça se passe mal, pour quand même bien le vivre, c'est de se rappeler de un, que tu vaux 3 millions d'euros, et de deux, que ce n'est pas parce que les gens n'ont pas aimé ton travail ce jour-là qu'ils te désapprouvent en tant que personne. Mais c'est difficile, surtout au début de se dire ça, tu vois. Quand ils te désapprouvent, t'as l'impression qu'ils désapprouvent entièrement ce que tu représentes, ce que tu proposes humainement, tu vois, en existant, quoi. donc du coup, pour se détacher de ça, il faut avoir les reins solides, tu vois, d'une solidité que je n'ai pas, en fait. Enfin, ou que je suis en train d'avoir, que j'essaie en train de travailler, mais que je soupçonnais pas à la base. Et donc, je suis là et je disais à Sarah, je fais, putain, mais j'ai l'impression, en ayant choisi ça, parce que j'ai choisi ça quand je t'ai défoncé, de devoir assumer sobre un choix que j'ai fait bourré, quoi. Tu vois, à un mode, tu te réveilles à Las Vegas, t'es marié avec le stand-up, t'as son nom tatoué sur l'omoplate, et t'es là, ok. Et en fait, c'est hyper dur administrativement de se désengager, quoi. Genre, tu dois avoir une période d'essai de 2-3 ans, et en attendant, vous êtes marié, quoi. Et t'es là, oh, fuck. Et après, je dis pas qu'il y a des jours où je suis pas amoureux de cette activité, mais les moments de réelle satisfaction et de réel bonheur sont infimes. Et ça a l'air contre-productif de dire ça. Mais pourtant, c'est le cas encore aujourd'hui, c'est ça. Encore une fois, photographie à l'instant T, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est très rare que ce soit vraiment le kiff, quoi.
Et c'est quand que c'est vraiment le kiff ?
Des moments, c'est des étoiles filantes de kiff. Donc, par exemple, on était ensemble au Zénith de Toulouse. 4000 personnes, je chiais dans mon froc parce que les expériences à des milliers de personnes que j'avais eues avant n'étaient pas super bien passées. Et là, je sais pas pourquoi, mais ce jour-là, ça a bien été. Et c'était 4000 personnes, mais du coup, ça a recréé un peu la proximité d'un comedy club. Et de me dire, ah putain, il y a moyen de connecter aussi fort avec autant de gens en même temps sur un truc que t'as écrit toi-même et qui est donc un peu l'expression de ce que tu es. Ben ouais, là, c'est ce petit moment-là, c'était le kiff, quoi. C'est des petits moments auxquels je me rapproche. L'Hilarious aussi, le truc qui est sur la vidéo de Montreux, là.
Montreux version Lille.
Montreux version Lille. Ouais, ça c'était chouette. Mais pas aussi chouette qu'il y a deux jours où j'ai été au sport et j'étais au yoga, j'ai bien fait mes trucs et que je suis content de moi et que je suis satisfait et que je marche dans la rue en ayant cette petite impression que chaque respiration est un petit bonbon. Et en fait, je me rends compte que c'est dans cet état-là que j'ai envie de vivre. Et que c'est pas forcément la scène qui m'amène ça. Tu vois, c'est juste être content avec ce que j'ai fait moi tout seul. Tu vois, j'ai eu ça il y a un ou deux ans, j'étais amoureux de quelqu'un. Et je reçois pour la première fois un message où la personne me dit « Ah, tu me manques ». Et je me souviens de l'ivresse de bonheur immédiatement suivi de la détresse absolue de me rendre compte, mais de me dire ce n'est pas normal de ne pas pouvoir ressentir ça tout seul. Ce n'est pas normal, ou en tout cas je me sentais défaillant de devoir dépendre de quelqu'un d'autre pour me sentir aussi bien dans ma propre peau, quoi. Et je me dis, je dois vraiment travailler sur le fait de ne pas dépendre des autres pour me kiffer, quoi. Et de me détacher de cette validation. Donc ça, c'est une part, ce que je recherche, c'est la validation intérieure. Et l'autre, c'est du coup de pouvoir être une source, tu vois. Parce que j'ai l'impression que si moi j'en suis là aujourd'hui, si j'ai péniblement survécu à moi-même, c'est parce que des gens, de manière très intéressée ou intéressée, mais en tout cas de manière relativement généreuse, consciemment ou pas, m'ont donné des choses sans que je leur donne rien en retour, vraiment. Et donc ont été pour moi des sources, quoi. Et même des gens que je trouve extraordinaires, même artistiquement, qui sont très forts dans ce qu'ils font, c'est des sources, quoi. Là, on parlait du bouquin là de Mohamed, dont je ne connais pas le nom de famille, le dernier Goncourt là, qui me met des claques des claques à chaque page. Ça aussi, je me suis rendu compte que en fait, quand tu lis un truc, quand t'écoutes, enfin tu vois, comme je te disais, moi, quand c'est trop bon, ça m'énerve un peu. Mais ça m'énerve pourquoi ? Parce que, en gros, c'est comme si, dans ma tête, je fais un petit combat, tu vois, avec la personne qui produit, tu vois, qui écrit, qui chante, ou j'en sais pas. Un truc où on est dans une espèce de MMA de la production artistique, et où je me demande si je pourrais faire aussi bien ou mieux. Pas aujourd'hui, mais avec de l'entraînement, encore une fois, comme quand je regarde le cirque, en disant « Donne-moi 3 mois, moi, si je fais du 3 pèses. » Mais... Et il y en a où je sais que je suis battu, tu vois. Il y en a où je sens que tu me donnes trois vies, j'arrive pas à pondre une page comme ils ont pondu. Et ça, ça m'énerve. Et Momo, là, il me met des claques de ouf. Bref, et donc lui, c'est une grande source.
Merde, j'allais regarder son nom, mais en fait, j'ai pas de... Je suis en mode avion.
Salut, ici la famille du montage. Juste pour dire que j'ai cherché après coup, évidemment, et que c'est Mohamed Mbougarsar, prix Goncourt 2021, avec son roman La plus secrète mémoire des hommes.
Alice Zeniter aussi, il y a pas longtemps que j'ai découvert récemment.
Elle, ça me rend heureuse des fois, juste je lis une page au hasard.
Ouais.
Et je te jure que je me dis, s'il y a des phrases aussi belles, c'est que ça va aller.
Ouais.
Il y a un truc reposant de...
Oui, oui, oui.
L'harmonie de cette phrase provoque de l'harmonie en moi. C'est incroyable.
Et en plus, je trouve que chez elle, bon après, je suis pas du tout calé en littérature pour faire, mais en tout cas, je peux juste parler de l'émotion que ça me provoque. Je trouve qu'il y a un truc tellement, il y a un truc aussi hyper généreux parce que c'est super beau et tu t'y sens bien, mais c'est comme si c'était aussi construit pour pouvoir accueillir des gens comme ça. Mmh. Tu vois, parce qu'il y en a où c'est super beau, mais c'est leur truc un peu intérieur, comme quelqu'un qui a le record des, je sais pas, des ongles les plus longs là. Enfin non.
Là tu m'as perdu.
Non, désolé. Non, mais tu vois un Guinness un peu chelou quoi. Tu vois genre le gars qui a le plus grand nombre de sous-tasses. T'es là, ok, waouh, c'est impressionnant, mais qu'est-ce que je fais avec ça, tu vois. Et voilà. Et parfois en écriture, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui c'est super beau, mais c'est un peu hermétique. C'est à être regardé derrière une vitre et c'est je ne nourrissais pas les animaux quoi. Tu vois, il y a une barrière. Tandis qu'Alice, il y a un côté... Alice, comme si... Ali, il y a un côté, on... Je sais pas, on s'y sent... Moi, ça me provoque que des choses positives. Et ça, je trouvais que... Et donc, il y a un côté source, quoi.
Ouais.
Voilà, un peu comme un bâtiment public qui serait magnifique. Tu vois, on s'est vraiment cassé le cul pour que ce soit une magnifique gare ou une magnifique église. Et pas juste une villa privée qui est dingue, mais que, en gros... Tu la vois pas du chemin, quoi. Tu vois. C'est que pour les amis. Donc voilà, ce truc de... Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, voilà, tous les gens qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à ce que des gens qui ont des problèmes dans la société en aient un peu moins, que ce soit...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Psychologiquement, au niveau de la santé... Des gens qui donnent, quoi. Voilà. J'aimerais passer des gens qui doutent aux gens qui donnent. Voilà. C'est ça que j'aimerais faire. Et voilà. Et on verra.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Ino JP est actuellement en spectacle à la Petite Loge à Paris et jouera au Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles pendant tout le mois de février. Il y a aussi plusieurs dates de tournée ailleurs que vous pouvez retrouver sur son site que je note en description de ce podcast. Je mets aussi tous les liens pour le suivre sur les réseaux, même si c'est pas trop son délire et qu'il utilise Instagram comme un daron, mais c'est d'autant plus marrant à suivre. Vous pouvez aussi vous abonner aux gens qui doutent sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, tout ça. Et mettre des commentaires et des étoiles pour donner de la force. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux, il suffit de chercher Fanny Ruet sur Twitter, Facebook ou Instagram. Des bisous. Et j'ai oublié de vous dire que ce générique avait été composé par le fabuleux Maxime Moitieu qui a également mixé cet épisode.